Il y a des lundis matins qui vous trahissent direct, qui vous chopent comme un uppercut, qui vous attrapent au foie, qui vous lâchent pas, qui referment les volets de bois sur soi, qui vous font plonger dans les regrets, dans des soubresauts d'éternité. Les nuits de la Maison Blanche, les matins d'Aulnay-sous-Bois, quand le monde, ça va pas. Il y a des lundis matins qui sonnent, comme des veilles d'un grand soir qui n'aurait jamais eu lieu, où pour pleurer t'as plus que tes yeux, où tes espérances sont là transies, cachées, blanchies, usées, passées par le tambour d'une machine à repasser les plats et l'histoire qui reviendra, qui reviendra. Ces matins-là, faut y aller, faut se lancer. Prendre la vie comme un toboggan, se laisser glisser. Prendre son courage à deux mains, courir, courir, et les horaires du train qui, lui, ne changent pas. Accroche-toi à ça, ces petites réalités-là. Alors, ces matins-là, faut se dire que quelque part, il y a quelqu'un d'autre, que tu n'es pas seul sous cette planète. Être là avec l'autre, ne former qu'un. Un seul, à deux, dans la tourmente et les éclats. Comme Michel et Barack Obama. Comme Michel et Barack Obama. Alors, c'est Marie Bonisseau aujourd'hui. Marie Bonisseau, c'est pas parce que vous êtes pas tirée pareil qu'il faut pas être à l'heure pour le journal. Bonjour, alors c'est vous aujourd'hui, on va vous écouter. Voilà, c'est le journal de 7h02 de Marie Bonisseau. Je vous expliquerai, hein, c'est pour quelques jours, n'ayez pas peur. Il y a les Thierry Paratis qui commencent à s'inquiéter, qui commencent... Bonjour Marie.
Bonjour à tous.
Bonjour.
Quatre policiers d'Aulnay-sous-Bois en Seine-Saint-Denis ont été mis en examen hier, un pour viol, les autres pour violence volontaire, sur un jeune homme de 22 ans qu'ils contrôlaient dans la cité des 3000, ça s'est passé jeudi dernier. Et d'après les images de vidéosurveillance, il semblerait que le pantalon du jeune homme ait glissé à ses genoux, lui explique que ce sont les policiers qui l'ont déshabillé avant de lui mettre un coup de matraque. Il est toujours hospitalisé, il en aurait pour 60 jours d'interruption de travail. Un dimanche chargé pour les politiques français. Alors il y en a pour tous les goûts, les socialistes qui ont investi Benoît Hamon hier à Paris devant 2000 personnes. « Je ne suis pas l'homme providentiel », a-t-il expliqué, et je ne le demande surtout pas. Jean-Luc Mélenchon, lui, était un hologramme à Aubervilliers. En quasi simultané, 2 secondes de décalage pendant son meeting à Lyon, où il était vraiment, tout comme Marine Le Pen, à Lyon, elle aussi pour les assises du Front National.
Il était en hologramme, mais les autres, non, vous êtes sûr?
On n'est pas sûr.
Voilà.
Mais a priori, Marine Le Pen était vraiment une personne.
Alors, on parlera de ça tout à l'heure avec Nicolas Larty, qui nous filme tous les matins, qui a participé à cette histoire d'hologramme. On est vraiment au cœur de l'actu, Sianova.
Pénélope Fillon est victime d'un dispositif qu'elle ignorait. C'est ce qu'estime Ségolène Royal, qui défend la femme pour mieux attaquer le mari. La faute revient à ceux qui l'ont impliquée dans ce mécanisme et c'est grave pour la dignité d'une mère de famille. Fin de citation. Pour éviter une campagne à la Trump, Facebook annonce ce matin un dispositif anti-fake news. 8 médias français vont collaborer. Le concept, vous tombez sur un article qui vous semble bidon, vous le signalez, il est fact-checké. Et s'il est faux, un petit point d'exclamation rouge lui sera pour toujours attaché sur Facebook. Marcel continue sa route vers l'Italie. La tempête devrait souffler dans l'Aude et les Pyrénées orientales ce matin. Ce sont les deux derniers départements encore classés en vigilance orange vent violent. Ça devrait se calmer vers midi d'après Météo France. La Roumanie est-elle en train de finir sa révolution? Hier, 500 000 personnes étaient dans la rue, du jamais vu depuis 89 et la chute du régime soviétique. Ce qui a mis le feu aux poudres, c'est un décret pris pour assouplir la politique anticorruption. Décret finalement retiré sous la pression, mais trop tard, les manifestants promettent de ne pas faiblir jusqu'à la démission du gouvernement. C'est le plus beau comeback de l'histoire du Super Bowl. Cette nuit, c'était la finale à Houston aux États-Unis et les New England Patriots, les Pats, l'ont emporté en prolongation contre les Falcons d'Atlanta, 34-28. Tom Brady, le quarterback des Pats, en larmes, devient le joueur le plus titré du foot américain. Il a réalisé 466 verges aériennes au cours du match. Ne me demandez surtout pas ce que ça veut dire. En soccer, le foot qu'on connaît, hier c'était Saint-Etienne qui a remporté le derby, 2-0 contre Lyon. Les Verts remontent à la 5e place du classement
de
Ligue 1.
Le derby de Saint-Etienne.
Oui, Saint-Etienne contre Lyon.
L'horrible derby.
Et du coup, maintenant, Christophe, ils sont 5e derrière l'OL. Enfin, le Cameroun est champion d'Afrique. Les Lions indomptables ont battu les Pharaons.
Attendez, après on commentera, après vous le savez bien, on est méchants, se cachent et parleront après. Allez, pardon, Marie.
Je vous parle juste des lions indomptables, donc les Camerounais qui ont battu les pharaons d'Égypte 2-1. Et puis vous en faites ce que vous voulez, mais ce lundi c'est la journée sans smartphone. Il paraît qu'un Français sur 5 met moins de 5 minutes entre son réveil et le premier coup d'œil au téléphone. Et attention, on ne parle pas de ceux qui éteignent leur réveil sur le portable.
Merci beaucoup. Alors on est là.
On est là avec Atmen, donc, et Christophe et Titou. Dis donc, c'était comment le journal de la petite Marie
Bastianiso? C'était très bien. Non, mais c'est bien envoyé, c'est précis.
Oui.
La voix est claire.
Oui.
C'est moins âpre que oui. Thierry Paré.
Mais en même temps, je sais pas, je peux pas vous dire. Oui. C'est bien sûr, c'est bien, c'est formidable.
Oui,
mais
oui,
en même temps, tout ça, c'est. J'ai l'impression que c'est du déjà vu.
C'est vrai.
C'est pas vous, mais le monde.
Et c'est pas parce que c'est une femme.
C'est pas non, pas du
mais
tout.
Non, surtout
ça
pas,
n'a rien à voir. Moi, j'ai rien. Non. Dis donc, alors Christophe, oui.
Moi, je vous trouve un peu macho parce que j'ai trouvé ça super.
Bon, alors si on ne peut plus être misogyne.
Et méchant.
Alors je vais te dire, si on ne peut plus être misogyne, je n'en peux plus. Moi, la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Envoyez quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait
7h, 9h, plus près de toi.
Eva, plus près de toi.
7h, 9h.
Édouard Baer.
Je passe une matinée. Mon Dieu.
Non, mais ce morceau a eu sa chance, là, voilà. Après, là. Chacun décide un petit peu ce qu'il veut en faire. Quoi. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut faire d'un peu l'écouter ou
l'arrêter.
Il a fait un petit peu sa tournée province, je trouve.
Voilà, je crois que c'est. Voilà, c'est bon maintenant.
Avant le tour.
Puis Nova n'est pas une radio musicale quand même, ça se saurait. C'était une radio de conversation, de gens avec des voix un petit peu comme ça. Des voix grassillantes, des mecs qui a fumé trop de gitane maïs. Vous avez regardé Christophe Méné, le derby Lyon-Saint-Etienne?
J'ai regardé le derby Lyon-Saint-Etienne.
C'est toujours aussi chaud avec des trois rangées de CRS entre chaque joueur?
Ouais, c'est chaud. Et puis là, il y avait eu en plus des petites déclarations avant le match. Il y avait Anthony Lopez qui avait barré le nom de Saint-Etienne.
Oui, j'avais vu ça, sur son maillot. Ouais.
Donc voilà, et les dirigeants avaient demandé est-ce que ça se fasse plus, voilà, parce qu'il y avait trop de débordements.
Si par exemple j'arrive à Lyon là,
oui,
et que je dis qui c'est les plus forts, évidemment c'est les Verts, on a les meilleurs joueurs et les meilleurs supporters, on va gagner, ça c'est juré, allez, il m'arrive quoi?
De gifles.
Ok, donc je ne vais pas le faire, merci beaucoup. Marie,
J'ai découvert, enfin je le savais un petit peu, mais j'ai découvert que les Suisses étaient vraiment
obsédés par le bruit. Est-ce que vous faites partie des gens vous faites partie des gens qui disent je relis en ce moment?
Je
l'ai découvert, mais je le savais. Je relis Proust en ce moment.
Non, c'est-à-dire que je me doutais bien que les Suisses aimaient bien le calme, mais je me doutais pas que c'était à ce point-là. Ils sont obsédés par le bruit. Je lis dans une analyse de David Hess dans le Figaro que, par exemple, les concierges qui passent le souffleur à feuilles sont méprisés et on leur préfère celles qui passent le râteau, parce que le souffleur fait trop de bruit. Il y a des gens qui ont volé des cloches aux vaches d'un fermier parce que ça faisait trop de bruit. Il y a tout un mouvement qui veut que les églises arrêtent de sonner entre 22h et 7h du matin. Et les mecs sont en concurrence entre différentes villes pour savoir laquelle sera la plus silencieuse. Bref, il y a une petite obsession silence.
C'est horrible les cloches des vaches.
C'est horrible les cloches des vaches?
Bah bien sûr, moi j'ai déjà dormi à côté d'un troupeau de vaches avec des cloches, je peux te dire tu dors pas. Hein.
Mais t'as dormi où exactement?
C'est quoi ton enfance en fait?
Mais si champ. Tu vas dans un champ,
ça voilà, fait pas... Bah, c'est ça pas fait chez pas, toi.
Mais c'est comme les gens qui s'installent au-dessus d'une boîte de nuit, il y a quand même beaucoup de bruit dans cette boîte. Il y a écrit boîte de nuit en bas du con.
Mais dans une boîte de nuit, tu peux rigoler.
Edouard qui ne savait pas que c'était un night club en bas.
Oui, non, mais si.
Mais si.
Peut-être
qu'il ne savait
oui,
pas.
Et oui, ça arrive.
Mais c'est-à-dire que.
Moi, je ne savais pas qu'il y avait un champ.
Au départ, il y avait écrit night club.
Mais nous, en tant que propriétaires, nous ne savions pas que nous louions à un night club.
Qui s'appelait la cage aux
folles. La cage aux folles. Bon,
j'ai lu cet article aussi. Il y a un truc. Il disait une chose formidable, c'est qu'en Suisse, après non et bonjour, le mot le plus souvent adressé aux enfants en Suisse est chute. C'est bien, non?
Bonjour, ma chute.
Je sais, justement, qu'est-ce que Thomas, vous qui avez lu cet article, qu'est-ce que ça dit? Parce qu'il faut aller plus loin. Qu'est-ce que ça dit sur la Suisse et sur nous aujourd'hui?
Sur eux, ça signifie, c'est ce que dit l'article, que c'est leur identité. Voilà, ils ont une chance, ils ont trouvé leur identité.
C'est
que ils sont silencieux.
C'est peut-être une forme de courtoisie, de discrétion.
D'apprendre aux enfants de se taire, un pays très silencieux, alors dit chut, c'est bien déjà.
C'est mieux parler, peut-être moins parler.
Ils sont hyper forts au Monopoly, n'empêche. À l'âge de 8 ans, moi j'ai joué contre des enfants de 8 ans, ils m'ont talqué.
Quoi?
En Suisse.
En Suisse. Ouais.
N'en faites pas une généralité. Vous me disiez, dans mon régiment, il y avait un Bulgare. Les Bulgares, c'est des mecs comme ça.
Ils m'ont talqué.
Oui.
Non, mais vous savez qu'on dit. C'est peut-être qu'il vit dans une autre génération, parce que Modiano parle de ça. Il dit que lui, quand il était enfant, les enfants de Vester, à l'époque, quand les parents parlaient, les enfants n'avaient absolument pas droit à parole. Donc peut-être que les Suisses vivent encore dans l'enfance de Modiano dans les années 50.
Sauf que les adultes non plus n'ont pas le droit à la parole.
Ah, les adultes et
non,
les vaches non plus maintenant.
Les vaches non plus. Donc, les églises non plus.
C'est les fadas.
Pardon, Tito?
Ce sont des fadas.
C'est pas le mec qui
dit. Il n'est pas changé. Je suis toujours ce Suisse égaré.
Oui. Allez-y, oui.
Moi j'avais. Tu fais des romances, oui. Tu te chantes quelle chance, toutes les nuits dans le monde entier.
Mais moi non, non plus, je n'ai pas parlé, je n'ai pas ouvert ma bouche. Qu'est-ce que vous disiez?
J'avais une petite info.
Déjà vendez-la mieux.
J'ai une très belle info économique. Voilà, dans le Figaro économique ce matin, une très belle interview de François de Brugada. Oui. Voilà, comme vous le savez, donc le patron de Banijay Group, hein, qui est l'un des leaders mondiaux de la production audiovisuelle. Ils viennent tout juste de fusionner avec Zodiac. Voilà, il déclare « Banijay a atteint la taille critique pour faire de la croissance organique », ce avec quoi je suis entièrement d'accord. Malgré tout, François de Brugada déclare « Notre mode opératoire est toujours le même, hein, des sociétés à taille humaine animées par un esprit créatif et entrepreneurial ». Voilà, et ils produisent notamment la série « Les Marseillais ». Et on sait, on a appris que depuis que les candidats sont rentrés d'Argentine, on sait que Julien a trompé Manon avec Liam, ou encore qu'Hilary a couché avec Julien, ce qui a provoqué la colère d'Aurélie. Voilà. En tout cas, une nouvelle saison va être diffusée à partir de lundi 27 février, juste après Les Princes de l'Amour. Donc, merci Monsieur de Brugada.
Qu'est-ce qui vous prend, mon vieux?
Je voulais donner une info. C'est de l'économie.
Mais d'où vous êtes journaliste économique?
Je sais pas, je tente des trucs.
Mais qui vous a demandé un truc pareil?
Mais personne.
Il y a des gens qui font des années d'études, qui finissent par être embauchés dans un journal, qui ont le droit à la parole.
Alors, vous n'avez pas bien entendu, je crois.
De la hauteur Julien de moi, 1m50 de conneries, d'absence de culture et de curiosité pour le monde, un canon d'os, deux verres de vin et un coup de pied à vos enfants, c'est tout ce que vous savez faire dans la vie, vous allez nous faire une rubrique économique.
Mais tu m'as dit que tu regardais les Marseillais.
T'es en train de te faire talquer, toi.
Bon, à tout de suite dans la tendresse. Là, on est vraiment sur Nova, là, Armel. Hein.
Pas de doute. C'est Maurice Elmedioni.
Alors,
bienvenue à mes amis, le morceau.
Donc, quelle est l'idée, si vous voulez, de toute la rédaction musicale de Nova, de soutenir Maurice Elmedioni? C'est quoi notre positionnement, vous pensez, Armel, là-dedans?
Eh bien, c'est de faire de cet artiste le numéro un français, je pense.
Donc l'ambition, elle est élevée, quoi. C'est pas juste de le faire découvrir. Ah oui, donc il faut peut-être qu'on s'y mette à plusieurs, non, Thomas Baumgartner? Vous pensez que Maurice Elmedioni...
Le nouveau Johnny, c'est Maurice.
Je ne pense pas que le positionnement de Maurice Elmedioni soit là-dedans. Je pense qu'il y a des parcelles ça. Ensuite, on passe dans l'oriental à la Liboniche. Il y a une sorte de mélange chez Maurice Elmedioni de...
Du décloisonnement, hein, c'est oui. Ça, c'est Nova.
C'est un mélange de moi et d'Atmen.
Merci Tito, vous serez le prochain Johnny aussi.
Quelle intervention de Tito.
Nous sommes rejoints par Christophe Payet. Bonjour Christophe.
Bonjour.
Christophe, souvent vous venez nous éclairer sur des sujets liés à la technologie, mais vous êtes aussi éditeur. On va parler de votre maison d'édition qui fait paraître Jewish Gangsta. Hein, ça s'appelle, comment s'appelle cette maison d'édition?
Les éditions Marcelli.
Marcelli, c'est le nom de quelqu'un?
C'est le nom supposé de l'homme au masque de fer, en tout cas nom de code écrit sur les registres de la Bastille, tout à fait.
D'accord. Il a été arrêté sous le nom de Marcelli.
Marcelli, tout à fait.
Inscrit. Ah, donc,
inscrit sous le nom de Marcelli.
Comme un nom d'emprunt.
Voilà, exactement.
C'est très étrange. Et alors, on y reviendra. Donc, Jewish Gangsta, c'est de Karim Madani. Ça va paraître dans quelques jours. Qu'est-ce que c'est cette maison d'édition Marcelli? Oh, Christophe Payet.
C'est une maison qu'on a créée il y a un an, tout juste, avec un premier livre qui s'appelait Tokyo Vice de Jack Edelstein et qui est consacré à ce qu'on appelle la littérature du réel.
Alors attendez que la question soit posée, Christophe. Qu'est-ce que la littérature du réel?
Qu'est-ce que la littérature du réel, Christophe? On a le même prénom.
Eh bien, écoute, Christophe.
Ce stage de journalisme se passe très bien.
Les cinq premières années du stage de Méné étaient difficiles. C'est toujours les cinq premières années dans les stages qui sont chiants. Ça tombe bien, elles ne sont pas payées. Pardon.
Alors, la littérature du réel, c'est ce que les Américains appellent narrative non-fiction ou creative non-fiction. En fait, c'est une tradition littéraire qui est très américaine, qui jusqu'à présent était assez peu représenté ou en tout cas peu identifié en France. Et en fait, c'est un genre littéraire, mais qui parle du réel. C'est-à-dire, c'est à la croisée entre le journalisme et la littérature. C'est des faits réels, enquêtes, reportages, qui sont écrits avec les ressorts narratifs de la fiction. Donc, le dialogue, l'usage de la première personne, l'intérêt pour les détails. On recrée des scènes entièrement. Et en fait, on utilise les ressorts narratifs de la fiction pour écrire sur le réel, pour écrire du reportage et de l'enquête.
Alors ça, c'est un genre, Christophe Payet, qui existe aux États-Unis depuis
40, 50 ans, qui a été soutenu par pas mal de revues, de journaux, le New Yorker, Vanity Fair, Rolling Stone même, ce sont des revues, des magazines qui ont soutenu certains auteurs, Hunter Thompson, Tom Wolfe, ça c'est des
Norman
signatures,
Mailer,
c'est des signatures de cette littérature
durelle. C'est Tom Wolfe qui a théorisé en partie la littérature durelle, puisqu'il il avait publié une anthologie intitulée « Le nouveau journalisme ». Dans laquelle sa préface pose les bases en fait de ce genre-là. Et donc le nouveau journalisme, c'est le journalisme narratif, comme ça, le journalisme littéraire, donc à l'américaine aujourd'hui.
On peut même dire qu'en France, ça avait commencé avec Blaise Cendrars, hein, parce qu'il avait dédié l'or ou Rome à ceux que la littérature contemporaine dégoûte. C'est-à-dire cette littérature qui se passait toujours dans un même milieu avec des petites histoires psychologiques dans trois salons.
Oui, il y avait sans doute une manière d'ouvrir aussi les fenêtres de la fiction, cette littérature du réel.
Oui, totalement. En fait, c'est une façon... de s'ouvrir sur le monde qui nous entoure, de parler du monde qui nous entoure tout en prenant le lecteur avec la force, la puissance narrative qui est celle de la fiction.
Alors comment ça se fait que c'est un genre quand même très américain, on l'a dit, depuis une cinquantaine d'années, mais depuis 5 ans en France, et il y a votre maison d'édition, mais
il y a Sous-Sol, il y a Globe, il y a un
comment
vrai phénomène.
Comment ça se fait que ce boom-là existe en France, là, maintenant?
Alors, il y a un phénomène, je pense, qui est... en partie lié d'abord au terrain qui a été préparé par les revues de long format. Alors Feuilleton, 21, Long Cours, il y a un certain nombre de revues qui, il y a plusieurs années, ont commencé à émerger, ce qu'on appelait les MOOC, même si c'est pas très beau, un magazine book. Ces revues ont préparé le lectorat à lire du très long format, très narratif journalistique, et elles ont montré qu'en plus, il y avait un lectorat pour ça, puisqu'il y a un certain nombre d'entre elles qui continuent d'exister, qui ont un vrai public. Et je pense que là, tout simplement, on vit l'étape 2 de ce phénomène, avec effectivement aujourd'hui des maisons d'édition qui sortent des bouquins de 400, 500 pages de récits journalistiques. Et il y a un phénomène qui se passe, c'est-à-dire que c'est un genre qui a toujours existé en France. En fait, plein de maisons ont toujours publié de la littérature du réel, que ce soit un éditeur comme Alia, par exemple, a publié énormément d'écrivains américains de non-fiction. Mais on en trouve aussi, si on prend Emmanuel Carrère, c'est de la littérature du réel. D'ailleurs, son livre L'Adversaire, c'est un peu le 200 froid de Truman Capote français. Donc ça a toujours existé, mais c'était non identifié. Aujourd'hui, ça commence à l'être, notamment par les libraires qui, jusqu'à présent, ne savaient pas forcément où ranger ce type de livre. Est-ce que c'est des essais? Est-ce que c'est des documents? Est-ce que c'est de la littérature? Non, c'est de la littérature, mais c'est un genre de littérature particulier. Et c'est vrai qu'en France, on a eu... du mal à accepter cet entre-deux, entre le journalisme et l'écriture littéraire. Je pense que c'est en partie lié à la conception, à la construction d'identité professionnelle des journalistes qui, au moment de se constituer en tant que corporation, voilà, ont revendiqué l'objectivité, la charte de déontologie en 1918, la création du SNJ, etc., qui ont permis de se justifier en tant que corporation, donc une profession qui parle de l'objectivité et donc de se distinguer des auteurs, des écrivains, de la fiction.
Christophe Payet, vous avez une belle énergie, vous avez la niaque, vous en voulez. Mais Jewish Gangsta, ce nouveau livre de votre maison d'édition, ce livre de Karim Adani qui va sortir, où le lire, comment le lire? Fait-il partie, vous savez qu'aujourd'hui le livre, il y a une façon de le lire, est-ce que c'est un livre d'été, un livre de plage, comme ces gros pavés, ces prix Goncourt ou ces romans à l'eau de rose? Est-ce que c'est un livre TGV, comme ces petits romans psychologiques français? Est-ce que c'est un livre toilette? Qu'est-ce que tu fais là-dedans depuis une heure? J'arrive. Est-ce que c'est un livre métro qu'on écoute avec des oreilles, qu'on lit avec des oreillettes entre la station Champs-Élysées-Clemenceau et la station Concorde? Est-ce que c'est un livre foutez-moi la paix les enfants? Comment le lire? Où le lire? Dans quelle tenue? En buvant quoi?
Lisez-le où vous voulez. En tout cas, c'est pas un livre de plage parce que c'est un livre qui est dur. En fait, beaucoup de littérature du réel et on y retrouve des récits extrêmement durs puisqu'on va explorer les bas-fonds de la société. Là, sur Jewish Gangsta, on est sur des gangsters juifs aux États-Unis à Brooklyn dans les années 90 qui, en pleine guerre des gangs jamaïcains, portoricains, vont essayer de vivre, de survivre en créant une culture ex nihilo et notamment en rappant. Donc, c'est pas vraiment de la littérature de plage. Après, c'est une littérature que vous pouvez lire où vous voulez, dans les toilettes si vous voulez ou dans le métro, tant que ça vous
fait évader
de votre quotidien.
Quand vous dites gangsters juifs, il faut dire après aussi qu'il y a aussi des gangsters musulmans, des gangsters catholiques, des gangsters protestants et des gangsters athées. Sinon, je vais avoir des problèmes. Thomas Bongarté, vous avez envie de finir en beauté, je crois, ce moment, Christophe Payet.
Je trouve que le concept de livre de plage de février pourrait convenir, je pense, à Jewish Gangsta. Non, juste une remarque, oui, c'est ça, au moment où la réalité, la vérité est mise en cause, il y a la réalité, vérité alternative qui... plus que théorisé et pratiqué par certains dirigeants de la planète maintenant désormais, est-ce que la réalité peut se réfugier dans la littérature? Ça pourrait être une piste pour la suite.
Ne répondons pas. Laissez des choses ouvertes. Merci Christophe. Tout de suite après, Admin Kelly fait à la plage.
7h-9h, plus près de toi.
De 7h à 9h, j'écoute Plus près de toi.
Plus près de toi.
On comprend pas tout, mais c'est bien.
Voilà, vous êtes en train... Vous êtes en train d'entendre... Vous êtes en train d'entendre Admin Kelly à Brest.
Et dans quoi, dans le stand-up ?
Nous étions à Brest, vous étiez en train de faire un stand-up dans le mythique sous-sol du Vauban, où a commencé Miossec, où la plupart des artistes brestois. Vous êtes monté sur scène devant personne.
Il n'y avait personne, c'est vrai.
C'était très beau.
Vous m'avez jugé, vous m'avez donné une note qui était...
Non, c'était proche de zéro, mais ce qui était beau, c'est qu'il n'y avait personne dans le sens, vous n'avez amené personne par votre présence, mais vous n'avez pas vidé la salle non plus vu qu'elle l'était avant.
Ah, d'accord.
Donc il n'y a pas de fierté, mais il n'y a pas de honte.
Il y a gagnant-gagnant, c'est ce qu'on appelle.
Le journal de Marie Bonisseau.
Radio Nova.
Quatre policiers d'Aulnay-sous-Bois en Seine-Saint-Denis ont été mis en examen hier, un pour viol, les autres pour violence volontaire. Les faits remontent à jeudi dernier pendant l'interpellation d'un jeune de 22 ans qui souffre de blessures graves. Il est toujours hospitalisé. Attention, deux départements sont encore classés en vigilance orange, vent violent ce matin, l'Aude et les Pyrénées-Orientales. La tempête s'appelle Marcel et elle devrait se calmer vers midi d'après Météo France.
C'est formidable, oui. La tempête s'appelle Marcel. Donc si elle vous énerve, si elle passe au-dessus, dis non Marcel,
c'est ça.
Va souffler
non, mais
plus loin.
Que d'habitude, les tempêtes ont des noms féminins. Comment ça se fait?
Non, alors je t'expliquerai ça. Tu peux inscrire le prénom que tu aimes et tu peux l'inscrire sur une liste et il peut potentiellement devenir nom de tempête.
Ah d'accord,
je
okay.
Je te raconterai ça.
J'ai adoré ce moment.
Ah, c'est magnifique. Marcel, alors.
Lui s'appelle Benoît Hamon,
pardon,
officiellement.
Renvoyez, oui. Armel, quand vous montrez qu'on revient dans l'info plus rectiligne, renvoyez un petit talentin, vous voyez.
Alors vous pensez que c'est utile pour qu'on...
Oui, parce que sinon la digression a l'air d'être de l'information.
D'accord.
Et on est très précis là-dessus. C'est la réunion du 12 février avec le bureau 404 qui avait stipulé ça.
Ah oui, je dormais.
Avec Jean-Michel, avec Jacques-Alain Nova, Claude-François Pigas.
Patrick Radio.
Voilà ça.
Benoît Hamon, officiellement candidat du Parti Socialiste. Il a été investi hier à la Mutualité à Paris. Jean-Luc Mélenchon, lui, faisait un meeting à Lyon et à Paris sous la forme d'un hologramme. Ça aurait coûté entre 50 000 et 100 000 euros, c'est le prix de l'ubiquité. Et puis entrée en campagne aussi pour Marine Le Pen à Lyon, elle aussi pour les assises du Front National. Facebook va tester...
Rappelez-vous, le prix de l'ubiquité. L'ubiquité a un prix, combien? Appelez tout de suite au standard. Pardon.
Facebook va tester un dispositif anti-fake news. Vous savez, ces infos bidons accusées d'avoir notamment aidé à faire élire Donald Trump. Pour éviter ça chez nous en France, 8 médias français vont collaborer avec Facebook, vérifier les informations qui circulent et signaler les articles fantaisistes. Du football, honneur aux Américains. C'était la finale du Super Bowl cette nuit. Victoire des New England Patriots contre les Falcons d'Atlanta, 34-28. Et puis en France, c'était le derby Saint-Étienne-Lyon. Victoire des Verts, 2-0. Saint-Étienne remonte à la 5e place du classement de Ligue 1. Juste derrière les Lyonnais qui voient s'éloigner les chances de podium. Puis enfin le Cameroun est champion d'Afrique. Hier, les Lions indomptables ont battu les Pharaons d'Égypte 2-1.
C'était magnifique la joie des supporters camerounais là en France. Dites-moi, oui, à partir de quand ça va être vérifié les fake news?
On ne sait pas encore.
On a quelques instants encore, on y va. Vraiment de très très loin, cette matinale est la plus écoutée de toute l'Europe. Vous avez autre chose, des infos?
Non, j'ai trouvé que dans le ton, vous disiez « Ouais, le Super Bowl, c'est génial, tout ça. » Et derrière, oh, le derby, le derby était un peu plus minable.
L'Amérique fait encore rêver.
Non, mais j'ai essayé d'avoir l'accent américain en fait, mais vous ne l'avez pas reconnu. Mais c'est pour ça que...
Vous avez regardé le Super Bowl, vous, Ahmed?
Non, j'ai regardé le résumé là, ce matin avec Lady Gaga, qui est arrivée dans une robe paillette et qui a rechanté simplement et purement l'hymne américain. Pour bien me faire comprendre qu'il avait été très mal chanté à l'investiture, et j'ai trouvé ça magnifique.
Vous voulez dire que j'aime bien dans les accusations contre Trump, et en plus, les chanteurs sont moins bons que les chanteurs.
Bien sûr, la fille, elle n'était pas terrible, la pauvre fille.
Foutez-lui la paix, mon petit Trump. Dites aussi que vous n'avez pas sa coiffure tant que vous y êtes. On part dans la rue.
Il n'est pas sa teinture.
On part avec Jack Souvent. Jack Souvent, vous êtes à Lyon aujourd'hui.
Oui, je suis à Lyon, Paris 9e, bonjour.
Paris 9e.
Le jour se lève de plus en plus tôt, c'est super.
Vous êtes à Lyon ou à Paris 9e?
Je suis à Lyon, Lyon 9e, Lyon Paris 9e. Et c'est beau, les oiseaux sont là et tout. Et puis, je suis rue du Chapeau Rouge, il y a Gorge du Loup à droite, il y a l'Observance tout droit, il y a Fort
Gorge de Loup.
Gorge Attention, de parce que Christophe Ménet est lyonnais.
Ah oui, ah, il est lyonnais.
Spécialiste de Lyon.
Bah, salut Christophe, alors je vais prendre la direction de Gorge de Loup avec Julie. Bonjour Julie.
Bonjour.
Parce que Julie, elle cherche un café. Et elle m'a dit, on va aller dans un café de cloche.
Ouais, un bar de cloche.
Qu'est-ce que c'est un bar?
Alors, un bar de cloche, ça veut dire qu'en fait, il y a des gens qui vont dans des bars à des certaines heures. Et on appelle ces gens-là des cloches. Bar de cloche, ça veut dire qu'ils vont, par exemple, à 6h du matin, ils vont dans tel bar. Après, à 7h, ils vont dans d'autres bars. Et en fait, ils font la tournée des bars comme ça. On appelle ça un bar de cloche.
Vous n'avez pas de café chez vous, quoi?
Si.
Et ça sonne.
Ils servent des cafés, eux.
Comment?
Ils servent des cafés, mais ils sont souvent plus chers que l'alcool.
Alors là, on va... Edouard?
Oui, j'écoute bien. J'essaie de voir. Parce que les cloches, c'est comme les cloches, toutes les heures, ça sonne.
Voilà, c'est ça.
Julie, vous êtes tombée dans la boisson à quel âge?
Bah, 5 ans et demi.
Oui. Est-ce que ce sont vos parents les premiers qui... Est-ce que vos parents vous ont fait goûter au fameux pot lyonnais des 5 ans et demi? Ou est-ce que de vous-même, vous alliez en cachette dans des estaminets pour enfants?
Moi, parce que j'étais déjà indépendante.
D'accord. Et aujourd'hui, ça nous fait quel âge, Julie?
Ça fait 30 ans.
30 ans, donc 24 ans et demi de boisson.
Voilà.
Eh bien, c'est à recommander parce que je vous avez la voix claire, vous êtes joyeuse.
Là, on arrive au bar. Et le bar, il s'appelle le bar de la paix. Mais moi, j'ai lu un truc il n'y a pas longtemps, ça s'appelle Foutez-vous la paix. Elle est toute seule dans le bar, on y va quand même?
Ouais, on y va.
Alors, nous sommes donc dans le... Christophe, vous connaissez ce quartier?
Pas très bien, non.
Mais le bar de la paix, c'est le très beau bar qui est au bout.
Bonjour, madame.
Lyon. Oui, à Lyon.
C'est... Bonjour.
Non.
C'est... Voilà, on rentre dans le bar de...
Oui, de Julie.
Vous connaissez... Julie, c'est vous?
Oui, oui. Enfin, non, dans le bar de... je me souviens plus de...
Jacques. Je comprends rien. Bonjour, Jacques.
C'est décousu, voilà. Hein, je vous cache pas qu'on vient de perdre 50% des auditeurs.
Voilà, on est en train de prendre un café, s'il vous plaît.
Non, vous n'êtes pas en train en 30 secondes de prendre un café. Vous commandez un café.
Je vais prendre un café, s'il vous plaît.
Voilà, ah bah dis donc.
Les dialogues sont incroyables.
Et les boissons me font pas
rêver. Comment vas-tu, Jacqueline?
Ah, comment vas-tu?
Ça va? Ouais.
Comment elle va, Jacqueline?
Eh bien, ça va, elle va bien.
Non, je voudrais qu'elle me le dise elle-même, j'y crois pas. C'est une fake news, ça, pour moi.
Ah, mais c'est une fake news que
ah
ça
oui.
veut dire.
Ah, ben, on en a parlé ce matin. On va vérifier.
Il y a marqué je n'écris plus, j'encaisse sur votre miroir, Jacqueline.
Non, gueulez pas la patronne, bah, le patron s'en charge.
Oui. Les clients, quand ils rentrent, surtout quand c'est détourné, j'encaisse. Parce que je veux bien un verre, d'accord, mais. Plusieurs, on ne peut plus après. C'est moi-même qui ne peux plus m'en sortir. Je ne peux plus payer. Et à une certaine somme, les clients, on les perd. Ouais.
Jacqueline, donc vous refusez de servir plus d'un verre à vos clients. C'est votre honneur et c'est la commerçante en vous souffre. Mais là... pas très clair ce que je dis.
Non, Jacqueline, maintenant, à quatre oreilles.
Jacqueline, bonjour.
Bonjour.
Jacqueline, bienvenue, on est heureux de vous rencontrer. Tout à l'heure, Jacques Souvent me disait que vous alliez bien. Est-ce que vous pouvez nous le confirmer?
Oui, bien sûr.
Très bien. Quand vous dites que vous allez bien, est-ce qu'on veut parler de la santé ou est-ce qu'au moral, ça va aussi?
Les deux, ça va.
Est-ce que vous pouvez nous donner des raisons d'avoir bon moral ce matin qui seraient les vôtres?
Les miennes, c'est parce que je suis présente ici. Ça va, voilà.
Présente au monde, à votre poste de travail. Vous êtes statique, vous êtes en mouvement, vous êtes assise, Jacqueline, au Café de la Paix?
Non, je suis debout toujours.
Vous avez des talons plats, on est sur des talons compensés, on est sur une semelle de renfort?
Compensée, tout simplement.
Et les lombaires, comment vous tenez vos lombaires bien? Vous faites de la gymnastique, vous avez une ceinture lombaire?
Non, j'ai pas de ceinture.
En fin de journée, vous avez peut-être un petit peu des mal au dos. Vous nous conseillez des mouvements gymnastiques?
Oui, un petit peu mal au dos, oui, ça c'est sûr.
Qu'est-ce que vous recommandez en étirement?
Ah, je sais pas. Moi, je sais pas.
Cette expression « foutez-vous la paix », ça vous dit quelque chose?
Non.
Oh là, c'est le vide total. Foutez-vous la paix, foutez-vous la paix, mais laissez tranquille votre dos, vos lombaires, tout ça.
Non, ça va. Pour moi, c'est bon.
À tout à l'heure, Jacqueline. À tout à l'heure, Jacques. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Tout allait bien. On tenait sans doute un sujet intéressant, une belle rencontre du matin. Ce lion endormi après ses meetings de ce week-end. Ce lion qui avait été Marine Le Pen pendant tout dimanche après-midi, qui a besoin de se relever ce matin. Et tout à coup, je suis parti sur une histoire de talons compensés, de lombaires qui n'amenait rien, ni à l'auditeur, ni dans la conversation avec Jacqueline, qui a sûrement beaucoup plus à donner que ce que je lui ai demandé.
Moi, ça m'a intéressé. Pourtant, toute cette discussion-là, j'aurais aimé avoir des conseils sur de gym, sur les lombaires et tout ça. Je trouve dommage que ça...
Mais cette histoire de crédit...
Dans la grande tradition des lèche-cul français, Vous êtes au top, Christophe Méné. Vous savez dire le bon mot au patron, la pomme à la maîtresse, le bouquet de fleurs au supérieur hiérarchique, le regard mouillé, le sourire exagéré, la carpette. Merci infiniment, Christophe. Tant qu'il y aura des hiérarchies, nous aurons besoin de gens comme vous.
Merci, je suis très ému.
Qu'est-ce qu'il y a ?
Non, je disais, elle était partie sur une histoire d'ardoise que j'ai bien aimée avec des mots écrits. Et moi, ça me rappelle une ardoise, enfin un mot d'ardoise pour plus faire d'addition qui m'avait beaucoup plu. Ils avaient écrit dans un bistrot à côté de Saint-Tropez. Voilà. Ils avaient écrit depuis que Marc Lemoy est parti, j'encaisse et là et assure. Voilà, ça m'avait
merci,
beaucoup plu.
Ça valait le coup de prendre la parole.
C'était bien.
7h, 9h, Édouard Baer.
Plus près de toi.
Plus près de toi. Une émission extrêmement racoleuse.
Nous sommes avec Dominique Reynier. Comme tous les lundis, c'est notre petite joie du lundi. Vous avez vu, comme vous êtes bien annoncé, hein, oui, on vous déroule le tapis rouge, mais vous le méritez. Dominique, bonjour.
Bonjour.
Dominique, on a eu un énorme week-end politique. Là, tout à coup, il y a eu trois meetings monstres, en plus de l'affaire Fillon, mais ça, on verra si on en parle ou pas. Il y a eu d'abord, samedi, on a eu. Ça a commencé par Mélenchon, par Macron. Attendez, je me trompe. Il y a eu Mélenchon, Macron, Marine Le Pen qui ont fait trois meetings monstres. Oui. Ça a été un petit peu un combien de combattants pour chacun, 5000 l'un, 10 000 l'un, un hologramme pour l'autre, voilà. Des déclarations. Qu'est-ce que vous en avez retenu, vous ?
Lyon et Paris pour Mélenchon, comme vous l'avez dit, pour la version avec hologramme. Ce qui m'a beaucoup frappé ce week-end, et j'ai trouvé que c'était tout à fait emblématique de l'état actuel de notre élection présidentielle, ces trois candidats importants présents en meeting, ayant investi beaucoup de moyens avec des meetings importants, et puis l'absence, en réalité, sinon de façon très négative, l'absence, pas de meeting, et puis des commentaires compliqués, négatifs, hein, sur le candidat de la droite et du centre, François Fillon. Et une situation qu'il faut bien mesurer comme étant très paradoxale, quelles que soient les préférences politiques des uns et des autres, entre 2012 et 2017, les scrutins intermédiaires, les élections municipales, départementales, régionales et les 22 élections législatives partielles ont été remportées par la droite et le centre. Ce qui est souvent le cas puisque la gauche était au pouvoir, donc c'est un mécanisme que l'on connaît bien. Mais enfin, aujourd'hui, il y a voilà, une force électorale qui remporte les élections, c'est la droite et le centre. Eh bien, c'était la force électorale qui avait disparu ce week-end. Et ça, c'est quelque chose qui, bien sûr, en raison de l'affaire Fillon, où l'on entendait donc ce week-end Mélenchon, Macron et Marine Le Pen. Je crois que c'est quelque chose dont il faut mesurer la gravité. Toute une partie de la société politique française a été tenue au silence ce week-end parce qu'elle est empêtrée dans une affaire compliquée. Et ça nous amène, s'il n'y a pas de régénération ou de clarification, ça nous amène à une élection présidentielle d'où une partie très importante du pays, pourrait être exclue en quelque sorte, ce qui, à tous les coups, est l'une des conditions d'une grande catastrophe électorale quand même.
Alors vous parlez de la candidature Macron, enfin la candidature Fillon comme étant celle de la droite et du centre. Macron a l'air aussi de vouloir être le candidat du centre. Mais il y a eu un autre aspect quand même ce week-end, c'est qu'on a eu l'impression que tout le monde s'est aligné sur le calendrier électoral de Marine Le Pen. C'est-à-dire que et Macron et Mélenchon se sont décidés d'aller l'un à Lyon et l'autre de faire un meeting dans ces dates-là pour montrer qu'ils étaient contre Marine Le Pen. C'est comme si on adoubait Marine Le Pen comme étant la candidate naturelle du second tour.
Ah oui, vous avez tout à fait raison. Et d'ailleurs, on est tous à observer les résultats. Là aussi, les résultats électoraux. Le Front National n'a remporté aucun département, aucune région en 2015. Mais c'est cependant, avec les élections européennes, que l'on pourrait aussi prendre en exemple, c'est cependant, en termes de suffrage, le premier parti politique français. Aujourd'hui, aussi étonnant que ça puisse paraître. Et donc, sa place au second tour aujourd'hui est quasiment assurée. On considère que si l'on veut gagner la présidentielle, il faut être au second tour. Parce qu'on pense qu'au second tour, face à Marine Le Pen, il y aura une espèce de réflexe que l'on connaît bien, réflexe républicain, sur lequel on compte beaucoup et qui fait que celle ou celui qui sera, enfin, celui aujourd'hui qui sera face à Marine Le Pen, eh bien, a des chances de remporter la présidentielle. Mais c'est une vision que moi je considère comme très datée. Il n'y a aucune assurance aujourd'hui dans un second tour comme celui-là que Marine Le Pen ne l'emporte pas. Il n'y a aucune assurance. On avait des assurances hier, elles sont moins fortes aujourd'hui, et elles seront d'autant moins fortes, je dirais, que le second tour sera surprenant. La présence de Marine Le Pen ne constituera pas une surprise au second tour, vous venez de le dire. C'est son absence qui constituera une surprise, ce qui en dit long sur le chemin parcouru depuis 2002, en 15 années seulement. Et selon le candidat qu'elle aura en face d'elle, le second tour sera tout à fait ouvert. Je voudrais quand même, il faut bien voir qu'aujourd'hui, personne ne peut dire d'un savoir certain qui sera face à Marine Le Pen au second tour. Ce peut être François Fillon, ce peut être Benoît Hamon ou Emmanuel Macron. Et si nous avons un second tour avec Emmanuel Macron, Benoît Hamon ou François Fillon aujourd'hui, alors pour des raisons très différentes, on ne peut pas préjuger du résultat, sauf à dire que l'on espère. Et à ce moment-là, à travers ces prévisions, on fait passer ses espérances. Mais en termes d'analyse, c'est quand même très compliqué.
Dominique Reynier, ce week-end, vous avez entendu des choses fortes de l'un ou l'autre, ou ça a été surtout une guerre d'images? Combien de divisions pour les uns et les autres?
Des images fortes, oui, du côté de Jean-Luc Mélenchon. L'hologramme, j'ai regardé hein, ça, et j'étais moi impressionné par l'hologramme.
Ah ben voilà, vous avez regardé l'image,
l'image, absolument. Mais j'étais impressionné. Alors peut-être c'est mon côté technophile ou enfantin qui demeure, et j'en suis très heureux.
C'est parce que c'est Mélenchon aussi qui a l'air un peu ringard. Ça serait Macron, on dira évidemment, c'est un jeune hors sol, branché, serait énervé.
Mélenchon fait pas ringard. Pour moi, c'est la gauche scientiste et techniciste en quelque sorte. Qui est une grande tradition de gauche, un peu oubliée à cause du versant écolo.
Non, je dis ringard, c'est pas... Je dis les gens ont l'air de dire, parce que tout le monde, il faut avoir l'air très jeune, très branché. Je trouve que ça fait partie aussi des talents aussi de Mélenchon, de vouloir avoir l'air ringard dans le sens pas parisien, pas branché.
Oui, oui. Alors là où Mélenchon est classique, c'est dans sa rhétorique. Il a une rhétorique classique. C'est lui qui a la plus belle langue, je dirais, dans le...
Magnifique.
Hein, oui. Voilà, donc des références souvent érudites, etc., qui s'adresse à un public qui doit vraiment suivre avec attention son propos. Et donc cette image-là était très réussie. Je ne sais pas si ça aura un impact, mais c'était quand même une première et c'était vraiment très bien fait. Emmanuel Macron a impressionné par un public très nombreux. Il est vrai, dans la ville, son principal soutien, le maire de Lyon, Gérard Collomb, mais c'était quand même une foule importante qu'on ne voit pas à ce point nombreuse. Dans
10 000 personnes ?
C'est ce que l'on dit, oui. Voilà, moi je n'étais pas sur place et puis le comptage est parfois difficile. Mais enfin, il y avait beaucoup de monde, ça c'est sûr, ça ne fait aucun doute.
Mais il a dit des choses qui ont frappé les imaginations ou juste des références historiques ?
Des références historiques un peu. Alors, il a dit quelque chose qui m'a étonné. Je partage avec vous. Bon, j'étais très étonné quand il a dit qu'il n'y avait pas de culture française, qu'il y avait une culture en France, mais qu'il n'y avait pas de culture française. C'est quelque chose qui est tout à fait étonnant, qui est singulier. C'est le seul candidat à porter ce discours. Et puis Marine Le Pen qui a décliné une partie de ses 144 propositions qui renvoie au fond à des idées classiques au sein du Front National, avec quand même quelque chose qui peut surprendre, y compris par rapport à ce qu'on disait précédemment sur le second tour. Elle réaffirme clairement sa volonté de sortir de Schengen, de sortir de l'Union européenne et de l'euro, de quitter le commandement intégré de l'OTAN. Donc, un discours qui me paraît, encore aujourd'hui, je dirais, être son principal obstacle pour être sûr de l'élection. Les Français ne veulent pas quitter l'euro. C'est leur patrimoine est en euros. Les Français ne veulent pas quitter l'Europe. Ils trouvent que le monde est dangereux. Ils n'aiment pas l'Europe. C'est possible qu'il n'y ait pas d'affect, mais c'est quelque chose qui les rassure. Et de ce point de vue-là, Marine Le Pen étant la seule candidate à souligner à ce point le projet d'une France seule dans le monde, ou en tout cas sortie de l'Europe, de l'Union et du commandement intégré de l'OTAN, je crois qu'elle place au-dessus de sa tête un plafond de verre. Et c'est un peu étonnant au fond, parce qu'on pourrait s'attendre de la part d'une femme politique comme ça, à un geste en quelque sorte... opportuniste qui lui permettrait...
C'est une sorte de courage politique de Marine Le Pen, Dominique.
Alors, est-ce que c'est un geste qui signifie qu'elle ne veut pas gouverner? C'est possible aussi qu'elle est devant la possibilité de devenir présidente, elle soit inquiète au point de ne pas le vouloir véritablement.
Merci Dominique Reynier. Juste en deux mots, avant de vous quitter, des petites prédictions sur le feuilleton Fillon cette semaine.
Alors, écoutez, alors, bien sûr, je n'en sais rien, mais ce que l'on peut dire, c'est que ça ne peut pas durer, ça c'est sûr. Oui. Et donc cette semaine, j'imagine, là maintenant, on est à quelques quelques jours du dépôt des candidatures, c'est mi-mars. François Fillon arrive d'une façon très claire à convaincre le public qu'il y a eu soit malentendu, soit excès et qu'il faut qu'il reprenne sa campagne. Et ce sera le candidat de la droite et du centre. Soit il n'y parvient pas et il sera remplacé parce que ça ne peut pas rester en l'état.
Merci. Vous dites beaucoup que c'est le candidat du centre. On n'en est pas convaincu.
Non, droite et du centre. Oui. C'est un peu.
Ben, c'est... Ah, c'est un...
Non, ouais, c'est le soutien de l'UDI, si vous voulez, c'est pour ça.
Oui, mais est-ce que l'UDI représente le centre? C'est dans mon livre. Merci, merci Dominique Régnier.
Pour ce débat matinal.
7h-9h, plus près de toi.
De 7h à 9h, j'écoute plus près de toi.
Plus près de toi?
Il y a vraiment des interventions pertinentes.
Alors, Atmen, Lila, elle est pas grande pour dire un poème.
Elle a que 4 ans.
T'as 4 ans, Lila? Il faut que tu me répondes parce qu'on ne voit pas les
jeunes.
Bon, et c'est, tu vas peut-être être la petite fille la plus jeune qui aura dit un poème à l'émission. T'es fière? Il faut pas que tu me fasses des gestes, ma chérie. Sinon...
Oui.
Bon, alors c'est une chanson ou c'est un poème? C'est quoi? C'est une poésie ou c'est une chanson?
C'est une chanson.
Ça s'appelle « La maman des poissons ». C'est de Bobby Lapointe, c'est papa qui te l'a fait écouter? Et t'as bien aimé? Tu me fais des
je
gestes.
Je fais que des gestes, il faut répondre oui ou pas. Oh, oui ou pardon.
Tu peux dire non
oui.
aussi. Bon, alors ma chérie, on t'écoute alors, parce qu'il y a un très beau cahier. Hein. On t'écoute, Lila, alors.
La maman, les poissons, elle a l'œil tout rond, on la voit pas jamais. Elle a les sourcils, ses petits lèvres bien. Elle est bien gentille et moi je l'aime bien. Aïe du citron.
Si l'on ne voit
pas pour les poissons qui sont dans l'eau profonde, qui j'ai jamais quand ils sont possessants, leur maman elle est grande.
Quand ils s'amusent
à faire pipi au lit ou bien aux sorcelles. Ou à cracher à de bas polissons et rester muette. La maman.
Monsieur, s'il vous plaît.
Les poissons. Elle est bien gentille.
Voilà.
Voilà. Oui, monsieur. Vous voyez, elle aurait été. Lila, c'était formidable, mais j'ai l'impression que ton papa t'a un petit peu gêné. Oui. Hein? Tu peux le dire?
Il t'a gêné, papa?
Oui.
Eh bien oui, oui, parce que c'est déjà, vous avez fait avec le petit Mozart, vous l'avez forcé à faire du piano à 3 ans, et maintenant la petite Lila, vous allez...
Bah oui, mais privation pendant un mois hein quand même.
Pour bon, que... c'était très très bien Lila,
vous voulez
bravo.
Parler de maman un petit peu, non? Qu'est-ce qui s'est passé avec maman?
Qu'est-ce qu'il y a eu avec maman?
Elle écoute.
Qu'est-ce qu'elle a fait maman?
Bah, parce que j'ai fait à manger avec elle, et je sais pas, parce que j'étais... toujours dans la chaise et je me lavais mes mains. Et peut-être j'étais partie, Marc, j'ai pas eu elle. Mais je sais pas que c'était passé. Et notre maison, elle est terre. Et les pompiers sont venus.
Les pompiers sont venus, oui. Monsieur Khalif?
Oui.
Pourquoi?
Parce que la gazinière a explosé à un moment donné.
Bah dis donc.
Oui, et Lila était très...
T'as eu peur, Lila, ou pas?
Oui.
Bon, ben là, ça va mieux.
Oui, elle a eu du l'eau sur, par terre, dans la cuisine. Et j'ai eu peur, et je sais pas que c'est eu. Et la télé était éteinte. Et je sais pas, c'était venu. Et les autres, ils sont pas... Et papa et maman, ils sont pas mangés.
Ben oui, parce qu'il y avait plus de quoi faire à manger. On pouvait plus chauffer.
Ben non.
Bon, mais ça va mieux maintenant.
C'est que moi l'a mangé.
Bon, bah là, il y a toi, parce que t'as mangé froid.
Oui.
Bon, bah très bien.
Alors bravo, merci.
Tu veux dire autre chose, ma chérie? Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire d'autre?
Rien.
Annuler le journal, annuler tout. On reste avec Lila toute la journée. Bon, merci, merci. Alors, tu peux aller à l'école. Il y a Martha Haye qui est là, qui vient écouter Lila Haye, qui est notre invitée pour tout à l'heure, qui est en train de préparer son live. Elle a entendu la voix de Lila, elle est arrivée. Hello, welcome, Martha. À tout de suite.
Au revoir.
Bah, tout de suite quoi? Il est 8h peut-être?
Oui, mais alors pardon, faites un petit jingle. Il est déjà 8h, donc qu'est-ce qui devait passer comme morceau qu'on n'a pas écouté?
Jacqueline Taïeb, 7h du matin, mais on pourra l'écouter peut-être à
8h10. D'accord. Ouais, d'accord. Le journal de Marie-Lise, il est 8h moins 20 secondes. Est-ce que vous voulez commencer à 8h pile, Marie, ou pas?
S'il vous plaît.
Ah, très bien. Christophe, vous avez des événements comme ça à la maison, comme chez les Khalif, ou pas?
Non, c'est très calme chez moi.
Chez vous, c'est plus calme?
Oui, oui, oui. On ne fait pas à manger, déjà.
Oui. On... Vous faites livrer ou vous allez au
en
chez
permanence,
Mar... restaurant fait... écossais chez McDonald's ou...
Voilà, par exemple.
Très bien, il est 8h. Ouf.
Bravo.
Mais mettez le petit. Je vous sais bien que je l'aime bien quand vous faites la relance, ah, je... Armel.
Pardon, excusez-moi. Donc on remet le petit jingle.
Oui. Ah, voilà, ça, j'adore ça. Chouchoucha. Ça me rappelle Canal Plus en 1982. Chouchoucha.
Chouchoucha.
C'est aussi ringard. Pardon.
Radio Nova.
Quatre policiers d'Aulnay-sous-Bois en Seine-Saint-Denis ont été mis en examen hier. Un pour viol, les autres pour violence volontaire sur un jeune homme de 22 ans qu'il contrôlait dans la cité des 3000. C'était jeudi dernier. D'après les images de vidéosurveillance, il semblerait que le pantalon du jeune ait glissé à ses genoux. Lui explique que ce sont les policiers qui l'ont déshabillé avant de lui mettre un coup de matraque. Il est toujours hospitalisé. Il en aurait pour 60 jours d'interruption de travail. L'heure de la contre-offensive a sonné pour François Fillon qui devrait parler ce soir dans un média tenu secret pour l'instant. Après un week-end de consultation, le encore candidat des Républicains pourrait faire acte de contrition, croient savoir les Échos. Week-end chargé pour les politiques de toute façon, de tous les côtés. Les socialistes ont investi Benoît Hamon hier à Paris devant 2000 personnes. Je ne suis pas l'homme providentiel, a-t-il expliqué. Je ne le demande surtout pas. Jean-Luc Mélenchon, lui, était un hologramme à Aubervilliers en quasi-simultané, 2 secondes de décalage pendant son meeting vraiment à Lyon. Tout comme Marine Le Pen à Lyon, elle aussi pour les assises du Front National. Les Français ne changent pas souvent de banque. C'est une exception culturelle comme une autre et elle va peut-être disparaître puisque la procédure devient beaucoup plus simple et plus rapide. Il vous faut désormais un RIB et un mandat de mobilité bancaire et c'est tout. Une disposition de la loi Macron qui s'applique à partir d'aujourd'hui. Qui a dit que Airbnb passait entre les gouttes? En 2016, la plateforme de location a reversé 7 300 000 euros de taxes de séjour à une vingtaine de villes en France, dont Paris. Annonce du directeur de Airbnb ce matin qui a tout intérêt à se mettre bien avec notre cher pays puisque c'est son deuxième plus gros marché après les États-Unis. Pour éviter une campagne à la Trump, Facebook annonce ce matin un dispositif anti-fake news avec 8 médias français. Le concept, sur Facebook, vous tombez sur un article qui a l'air bidon, vous le signalez, il est fact-checké et s'il est faux, un petit point d'exclamation tout rouge lui sera pour toujours attaché. Il reste 2 départements classés orange, vent violent à cause de la tempête Marcel, l'Aude et les Pyrénées-Orientales. Courage, ça devrait se calmer vers midi d'après Météo France. En attendant, 37 000 foyers français sont toujours privés d'électricité. On peut être le meilleur quarterback de l'histoire et pleurer. Tom Brady remporte le Super Bowl avec son équipe, les New England Patriots, qu'il a emporté grâce à un magnifique comeback en seconde mi-temps, puis prolongation contre les Falcons d'Atlanta. En soccer, le foot que nous on connaît, hier c'est Saint-Etienne qui a remporté le derby 2-0 pardon, contre Lyon. Les Verts remontent à la 5e place du classement de Ligue 1, juste derrière l'OL. Puis enfin, le Cameroun est champion d'Afrique. Hier, les Lions indomptables ont battu les Pharaons d'Égypte de 2-1.
Il a pleuré, alors je n'ai pas vu.
Bien sûr qu'il a chialé.
Oui, mais tiens, au Super Bowl, il y a une très belle pub pour Airbnb.
Bien sûr.
Incroyable, sur le partage, qui a été magnifique, qui a été ovationné, tout ça et tout, sur le partage, avec des photos de migrants en disant faites le tour du monde, partagez, c'est ça la vie.
Dans les très belles images qui s'échangent en ce moment, il y a un truc de la télévision danoise. Regardez ça si vous allez le voir sur YouTube, sur Facebook, où on voit sur les choses, sur les différences. C'est absolument magnifique. C'est pour une chaîne nationale danoise. C'était bien votre journal parce que contrairement à Thierry, vous avez dit la météo. Est-ce que Thierry, pareil, il a une sorte de snobisme anti-météo?
Alors j'ai dit la météo dans 2 départements.
Je trouve ça très généreux, mais je trouve que ça montre une réelle ouverture et un pas vers les auditeurs, plutôt qu'un entre-soi.
Je suis d'accord. Hein.
Pardon?
Ah, moi je suis pas d'accord du tout, Edouard, hein, si je peux me permettre, hein, je suis vraiment désolé, mais je trouvais que c'était très incomplet, cette météo quand même, incomplète.
Mais Thierry, pareil, d'abord, si j'avais su que vous écoutiez, j'aurais dit du bien, parce que humainement, je n'aurais pas eu le courage.
Edouard, je suis désolé de vous couper, je suis très embêté parce que j'ai pas encore déjeuné. Ça me coupe un peu l'appétit, ce journal que j'ai entendu, moi. Je ne suis pas très à l'aise avec ça. Hein.
Mais vous êtes en prison où, Thierry Paret? Vous êtes où?
Non, bah là, je suis au ski, mais limite, j'ai plus envie d'aller ski.
Non, mais revenons à cette information qui est très forte. Vous êtes donc un journaliste qui travaillait pour une matinale quotidienne, et aujourd'hui, vous n'êtes pas là, vous êtes en train de skier.
Bah, moi, je laisse ma place aussi à d'autres pour donner leur chance aux jeunes. Tu vois, quelque part, et je me rends compte de quoi? Que finalement, les jeunes ne sont pas très au point. Ça manquait de précision, très clairement.
Marie, vous avez le droit de répondre.
D'information environnementale.
Attendez, Thierry. De plein de choses. Thierry, laissez Marie répondre. Ce que je rappelle donc, vous êtes appointé par Radio Nova. Vous êtes en vacances de ski à une période non estivale.
Non, je suis au travail, là.
Ah, pardon. Vous travaillez à ski, vous êtes
chalet.
Professeur.
Non, juste, j'entends Thierry qui, moi, je prends toutes les critiques et les conseils. C'est vrai que j'ai que 19 ans. Mais Thierry, vous parliez d'informations environnementales que je devrais donner.
Oui.
Notamment.
Mais c'est quoi?
Bah, qu'est-ce qui s'est passé dans le monde, à travers la planète qui...
Ah oui, c'est, ah oui, plus, précis. Passé, c'est plus précis, là, merci.
Par rapport aux trucs qui se passent en général, par rapport au monde qui change.
Les choses, quoi.
Oui, effectivement, oui.
Écoutez, non, Thierry Barret.
Mais qu'est-ce qui travaille, Thierry Barret?
Tu vas aller me descendre les marmottes. Voilà. Hein, tu vas prendre le tire-fesse de l'épervier. Quand tu verras le mont du pendu, tu reprendras le, tu reprendras tes skis. Et puis tu
iras
prendre
un
vin chaud, un génépi, puis t'arrêtes de nous faire chier.
Et travaille ton planté-bâton.
Et puis, revenez-nous. Revenez-nous frais, Thierry Pareil.
Allez, amusez-vous bien.
On vous embrasse. On fait un peu de Jack souvent, la météo de Tito? Je sais pas, il y a tellement
pourquoi
de choses.
Pourquoi pas une météo complète, alors, du coup, ouais, avec...
La météo de Tito
complète,
et Jack souvent.
Complète, fromage, jambon.
Tito, ça va être... C'est en quelle note, la météo, aujourd'hui?
En fa.
Ah, bien sûr, la fameuse météo en fa.
Eh bien, la tempête est passée. Mais par contre, dans le sud-ouest, il va y avoir un petit peu de soleil maintenant. Alors, les températures, elles seront à Paris, bien sûr, toujours entre 3 et 9. À Nantes, entre 5 et 8. À Paris, sur du côté de Bordeaux, entre 7 et 13. Et Perpignan, entre 6 et 11. Et Marseille, entre 7 et 12. À Corté, entre 8 et 14. À Grenoble, entre 4 et 7. Et à Lyon, entre 5 et 8. Saint-Étienne, entre 7 et 8. Attention, à Dijon et Strasbourg, entre 1 et 5. Lolé, lola, lo. Lolé, lolé, lola, lola, lola. Lolé, lolé, lola, lola, lola. Lolé, lolé, lola, lola, lola.
Lolé, 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 lola. Amenez-moi Fred Touche.
7h, 9h, plus près de toi. Nova. Plus près de toi.
Plus près de toi. 7h, 9h.
2h d'émission. Mais c'est beaucoup trop court.
Jack souvent est dans les rues de Lyon aujourd'hui. La capitale des Gaules.
Je vous passe, oui, quoi? Je passe une petite burette? Je passe une petite burette ou la clé de quoi, là?
Oh, ça va, ça va, là. Ça va, ça va faire l'affaire. Je vais prendre mon appareil pour remettre mes pistons. Hop.
On est autour de la bateau.
Exactement. On est en train de tout remonter, là. On part de la base.
On est dans un garage ou dans la rue?
Exactement, dans un garage. Dans la rue, c'est peut-être pas trop autorisé.
Et c'est un moteur de quoi?
Volkswagen Passat.
Ah oui, ça c'est pour les plus faciles.
C'est pas une Nissan par hasard? Non, 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 c'est absolument pas. Qualité allemande, c'est ce qui est un peu de mieux.
Je suis apparenté au Nissan, moi, par les femmes.
Ah merde, c'est, pas bah, attends, c'est dommage pour vous. Hein.
Alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle a cette Passat Volkswagen? Elle avait quoi?
Un moteur cassé.
Oh, le mec, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait quoi?
Je pense que c'est l'entretien qui devait pas être fait correctement.
Et puis au bout d'un moment, donc il vous appelle, vous faites des panages aussi?
Exactement.
Donc vous êtes arrivé, appel en secours, allô, allô. Alors, je sais pas, je le fais pas bien.
Ouais, ah, et nous on va avec la dépanneuse, on récupère la voiture.
Donc là sur la dépanneuse, si jamais... oui, je vous en prie.
Oh, là, elle est plus sur la dépanneuse, là, elle est sur un pont élévateur.
D'accord, donc là vous êtes seul ce matin, il faut la rendre quand?
Oh, faut pas la rendre parce que du coup le client n'avait pas forcément les moyens, du coup on lui a racheté le véhicule pour essayer de le réparer, nous.
Et vous allez le vendre, vous, alors? Directement, les fameux achats au garage direct?
Exactement, plus tard.
Vous me garantissez que le prix de rachat au propriétaire de la Volkswagen Passat a été un prix gagnant-gagnant?
Bah oui, lui, il a eu besoin d'argent, donc dans tous les cas, le prix, c'est le bon.
Ah, il était pris à la gorge et t'en as profité,
hein. Voilà, exactement ça, mais c'est pas moi exactement. Enfin, moi j'ai rien à voir avec ça. Moi, je dois juste réparer la voiture. Après, hey, les transactions, enfin, c'est mon patron, ça.
Tu couvres le patron, hein, bravo, ouais.
Ah bah, faut bien qu'il me paye à la fin du mois, hein.
Ah, tout ça, c'est en tourloupe et compagnie.
Ah bah ça, c'est exactement proprement parlant de ce qu'on appelle les mécanos, de toute façon.
Nous, on fait un très beau métier d'honnêteté, moi je refuse d'être payé. Dites-moi, là, il paraît que vous comparez, vous avez une vraie tendresse pour le moteur.
Bah avant tout, enfin franchement, la mécanique, vu comme c'est salissant, il faut absolument qu'on soit passionné pour pouvoir y faire correctement. Parce que effectivement, c'est vous comparez les mécanos à des arnaqueurs et compagnie.
Non.
Mais bah, ça dépend. Hein. Les gens souvent ils arrivent, ils déposent leur voiture le matin, ils s'en sortent avec le soir avec une facture 500 €. Ils ont rien vu, ils ont posé la voiture en état. Elle tournait très bien, ils la récupèrent le soir, ils perdent 500 €, elle fonctionne toujours aussi bien. Donc pour eux, ils ont l'impression de se faire arnaquer. Or c'est pas ça. Nous on fait des révisions moteurs pour pouvoir justement faire garder au client le véhicule le plus longtemps possible. Mais ça, enfin bref, tout le monde ne le comprend pas.
Qu'est-ce qui vous touche dans un moteur? Qu'est-ce qui vous plaît?
La technicité. Faire, savoir chaque élément appartient à quoi, la fonctionnalité qu'ils ont. C'est super intéressant, mais une fois de plus, comme je dis, il faut être passionné.
Et vous aimez bien les défis? Plus c'est compliqué, plus ça vous plaît?
Exactement. Être capable de réparer quelque chose que quelqu'un d'autre n'a pas réussi, par exemple, rien que ça, c'est bien.
Dites-moi une fierté, vous avez eu récemment un moteur, vous vous êtes dit, oh là là, comment je vais le prendre celui-là?
Ah bah, de toute façon, non, mais les fiertés, il n'y en a pas forcément beaucoup. C'est le côté faire quelque chose très rapidement, le rendre dans les meilleurs délais et que le client soit super content, qu'il revienne chez nous parce qu'on a fait un service qualité irréprochable.
Il y a des choses, des réparations, le client ne se rend même pas compte du mal que ça vous a donné, mais vous êtes fier quand même.
Exactement, mais si en général les clients sont très contents parce que non seulement on leur répare leur véhicule, ils en ont absolument besoin pour aller travailler, pour ceux qui travaillent, et en second lieu, souvent vu qu'on met de la pièce d'occasion, ça les arrange, donc ils sont toujours très contents de notre boulot.
Je voudrais entendre trois bruits. Ah oui, c'est quoi ça?
Ça, c'est l'appareil pour rentrer les pistons dans le moteur.
Allez-y encore un peu. Oh, ça me fait un bien.
Une clé de laine, ça.
Hein?
C'est une clé de...
Non, c'est du 3, ça.
Parce que le Kevin, le monsieur, il a les mains remplies d'huile et il est en train de poser le piston dans le trou.
Ouais, c'est ouais. Exactement ça. Son problème, c'est que celui-là n'a pas envie de rentrer.
On est par terre, en fait, on a quatre pattes accroupies.
Bon, donnez un coup de main, Jack, parce que les Français ne vous croient plus, vous, Jack, souvent. Merci, Kevin. Ouais. Bon.
Il n'y a pas de souci.
Allez, faites-vous aider par Jack. Il faut un petit peu qu'il mette les mains dans le cambouis. Ça lui fera.
Je vais essayer, mais ça a l'air d'être compliqué. Hein.
Il a des gros doigts. Salut.
Aïe.
Calmez-vous. Qu'est-ce qui se passe?
C'est Fred Touche qui a commencé.
Ah non, alors voilà Fred Touche. Il m'a frappé. Une musique un petit peu braquée, Fred Touche. Merci à Kevin, les gros doigts, Romina. Il est le fils du Yeti et des Monty Python. C'est comme ça qu'il est présenté. Non, il ne mérite pas une musique comme ça. Mettez-lui quelque chose d'un petit peu plus... une autre. Fred Touche. Tant pis, je vais vous prendre à blanc. Fred Touche.
Bonjour.
Vous êtes... Bonjour.
Oui.
Vous êtes comédien, metteur en scène, auteur.
Troubadour.
Oui, on y reviendra.
Troubadour.
En temps, faudrait-il donner de cet amour. Mais vous êtes présenté comme le fils du Yeti et du Monty Python, ce que je trouve extrêmement prétentieux. Qui n'ont pas eu d'enfant.
Sauf que ce n'est pas moi qui ai imaginé ça. Moi, j'aurais été plus modeste.
Mais vous avez accepté, quand même.
Je l'ai accepté, oui, parce que dans le cadre d'une dimension promotionnelle, il faut aller vers des terrains qui ne sont pas les nôtres.
Vers le mensonge?
Vers une sorte de non-mensonge, mais un mensonge poli.
Je dis pourquoi vous êtes là. Vous avez commis, je n'ai pas d'autre mot.
Hein. Et convoqué,
vous n'êtes pas invité, hein, vous êtes convoqué aujourd'hui. Attention,
je suis convoqué, ça,
vous
n'êtes bien pas sûr, très bien.
Si vous avez commis un disque, soi-disant adressé aux enfants.
Mais bien sûr.
On va voir ce que vous entendez par enfant, destiné à éveiller, c'est écrit dans le dossier de presse, ces derniers, à ne pas dire oui à tout dans la plus pure tradition anglaise. Vous signez ces mots-là?
Oui, je les signe, bien sûr.
On va écouter ce qu'est un disque adressé aux enfants, destiné à éveiller ces derniers, dans la plus pure tradition anglaise.
Et on a un enfant pour écouter.
Armel.
Le magicophone. Ouais, ça marche. Ah, caca, pipi, la zigounette. Ah, caca, popo, cucu. Ah, caca, pipi, la zigounette. Ah, caca, popo, cucu. De la merde au cul à la merde qui pue.
Vous êtes sur Radio Nova.
Et qui pue du cul, de la merde au cul.
Goûtez Chocopunk.
C'est la qui pue et qui pue du cul.
Indice de Fred Touche.
Et ça pue du cul, mais ça sent pas bon.
Pour les enfants.
Caca, pipi, la zigounette.
Dans la plus pure tradition anglaise.
Popo, cucu. Caca, pipi, la zigounette. Caca.
Il est 8h16 du matin.
Du pipi qui pisse, la pisse qui pue.
On est vraiment en train d'écouter ça.
La pisse du pipi. Puant.
Oui,
la
piste du pipi, vous êtes en train de subir ce moment, moi aussi, nous boirons le calier jusqu'à la lit.
Fred
Touche. Combien de temps de préparation?
Des années de maturation pour essayer de comprendre comment aider l'enfant à aller plus vite sur le développement du stade anal. C'est un élément important. Par son aspect un peu veule, souvent les parents ont tendance à aller un peu plus vite. Là, c'est une manière de concentrer. Ça va durer 6 mois. Pendant 6 mois, les parents vont entendre cette chanson parce que l'enfant va... C'est une chanson qui imprime bien. Les enfants aiment la chanter.
Il y a un esprit de sacrifice chez vous, hein?
C'est pas forcément un esprit de sacrifice, c'est une... Oui, dans ce sens où j'ai envie de... Oui. Enfin,
vous avez envie de donner, vous avez envie de dépasser les conventions bourgeoises, vous avez envie d'aller plus loin et d'aider l'enfant à sortir du « Tiens maman, regarde ce qu'il y a dans mon pot ».
Aujourd'hui, vous savez, le monde n'est pas dans ses meilleurs aspects. Ce sont les enfants d'aujourd'hui qui vont faire le monde demain, qui vont devoir fermer les centrales nucléaires ou en rouvrir d'autres.
Tout de suite, un tout petit extrait encore.
Ah, attendez, j'étais pas
du
prêt.
Du même. En boucle, car il y a
une grosse demande.
Le magicophone.
Donc ces enfants-là, à qui vous adressez, vont sans
il
doute...
Il faut leur donner des outils. Et moi, j'ai voulu, au travers de cet ouvrage, ce CD pédagogique, leur donner des outils pour affronter le monde de demain. Le goûter chocopunk, c'est quoi? On dit souvent nous futurs. Non, c'est yes présent. Et des outils, en tout cas, c'est une boîte à outils.
Bien entendu.
Et la rime.
On écoute. Du cul, de la merde au cul. Boîte à outils, les outils c'est salissant, on en parlait avec le garagiste tout à l'heure, les mains dans le cambouis, toutes les formes de cambouis bien sûr.
Oui, à dada pipi la zigounette.
À caca pipi.
À caca pardon. Pipi la zigounette.
Il y a pas la même chose.
À caca pipi la zigounette. Ça vient d'où d'où vient la parole? Parce qu'Henri Dess là a écrit sur les animaux et tout. D'où vous est venu le moment de dire à caca pipi la zigounette? Ça a été un synth. Parce qu'on a vraiment, on est chez Charles Péguy, on est chez Hugo là, on est vraiment chez.
Oh, je dirais qu'on est plus chez Imodium. On est plus chez Imodium.
Smecta,
on est plus dans une,
Imodium, oui.
dans la dimension Smecta. Si tant est que ce soit des auteurs. Il y a une diffusion un peu diarrhétique, toujours pour être dans cette notion
Fred,
de développement du stade anal.
C'est du xylophone qu'on entend derrière, c'est bien ça?
C'est du magicophone.
Ah, d'accord.
Alors je sais que les plus grands magicophones ont participé à cette merveille. Akaka, pipi, la zigounette, donc on est vraiment dans... Ce dont les extrêmements sont chantés, sont fêtés, sont, je dirais, déculpabilisés aussi.
Célébrés.
Il faut déculpabiliser l'enfant.
Célébrés.
Rien n'est sale, vous disiez dans ce livre aux éditions à compte d'auteur. Rien n'est sale. La nature a toujours raison. C'est tout à coup le collège avec zigounette. C'est de ramener peut-être le sexe pipi, caca, zigounette. Et c'est là, c'est cette trilogie qui m'échappe un peu.
Il faut être dans le côté un peu fleur bleue. Il y a le côté un peu fleur bleue, un peu naïf de l'enfant. L'enfant est naïf. Il n'a pas la même vocation que nous à découvrir ce mot zigounette. C'est la légèreté, c'est la candeur, c'est l'innocence de l'enfant devant le mot, souvent les mots qui finissent en être, comme moulinette, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a, trottinette, bien sûr. Ça, tous ces mots-là font plaisir à l'enfant. Donc,
gestapette aussi.
Oui, gestapette, bien sûr. Et choupinette. Mais en tout cas, voilà, ils sont développés à éveiller une partie de son cerveau qui va lui permettre de se nourrir de tout ce florilège sémantique qui sont, effectivement, caca, pipi, zigounette, de la merde au cul qui pue la merde au cul.
Mais il n'y a pas que ça dans le disque.
Mais il n'y a pas que ça non plus. Voilà.
Merci. Merci Fred Touche. Ce disque Goûter Chocopunk, c'est un disque Nova. Il y a donc des gens qui, à un moment, ont décidé ici, dans ces locaux, de faire commerce avec vous, de s'associer à ce projet.
Remercions-les.
Jusqu'où irez-vous?
Juste, comme le disait Atmen, fort justement, il n'y a pas que ça.
Bien sûr que non.
Il y a aussi, bien sûr, des berceuses avec les vrais textes du traité de Lisbonne. Il y a aussi des chansons sur les enfants qui pètent, pour mieux comprendre les enfants qui ont des problèmes, puisque... Chaque enfant est différent, c'est aussi une manière de mieux comprendre l'autre. Il y a, alors je n'ai plus la liste devant moi.
Non, mais enfin, il y a des choses magnifiques.
Il y a plein de choses,
des
trésors.
Goûter Chocopunk, c'est une belle idée cadeau. De là à l'écouter, non, mais achetez-le.
Achetez-le quand même.
Achetez-le.
Ma fille
si
le veut, moi.
Si vous avez des enfants, si vous souhaitez en avoir, si vous êtes en rapport avec des enfants, si vous en croisez.
C'est une expérience à vivre. Le goûter Chocopunk, c'est une expérience à vivre. C'est quelque chose qui, je pense, je l'espère... ne laissera personne de marbre.
Merci, non. N'ayez plus peur avec Fred Touche.
Don't be angry.
Sortez-le. Sortez-moi s'il vous plaît. Be great.
You know me now, go be no. Dans un autre genre, hein, qu'est-ce qu'on écoutait juste avant, c'était Jamila Falak sur Nova.
C'est très beau.
On fait la revue de presse?
Oui, vous voulez que j'annonce, oui. Marie Misset est arrivée, s'est laissée bercer par cette voix. Il est 8h24.
Qui c'est qui a dit qu'elle travaillait pas, qu'elle fait que lire le journal? La revue de presse de Marie, Missé.
Marie Missé, ça fait du bien parce qu'on vient de passer un moment qui a été, hein, Christophe, on a...
Oui, ça amène un peu de fraîcheur.
Merci.
C'est parti. Le vent souffle... Bonjour, d'abord. Le vent souffle sur les banques aujourd'hui. C'est même la une du Parisien aujourd'hui en France. Maintenant, votre banquier va devoir être très gentil. C'est ce qu'ils disent en une. Lit-on avec tous les sous-entendus, hein, que ça donne sur les méchancetés habituelles de votre banquier. La méchante, donc, double page est réservée à ce dispositif de la loi Macron qui permet de changer de banque beaucoup plus facilement et qu'on peut utiliser dès aujourd'hui. Alors qu'il y a peu dans le Parisien, on s'interrogeait sur les explosions de frais bancaires. La petite originalité de l'article du Parisien, c'est de comparer votre banque à votre couple. On vous apprend à vous en séparer et on peut s'interroger sur la vie de l'auteur de l'article qui préconise de commencer par aller voir ailleurs avant de rompre. D'ailleurs, le mec déménage même avant de rompre et il laisse au nouveau partenaire le soin de s'occuper de tout. C'est très classe. Cette facilité pour changer de banque et ce parallèle, pourquoi pas, avec le couple m'a d'ailleurs fait penser à ce court article dans Uzbek et Erika qui présentait des divorce box, hein, c'est comme des gambettes box, mais pour les divorces, avec un avocat dans la box, des papiers pré-signés, etc. et peut-être un supplément champagne pour fêter le tout. Se séparer devient un jeu d'enfant, que ce soit d'une banque ou d'un mari. Mais revenons donc à la fronde contre les banques. Dans le tout nouveau Society, un article est consacré à John Pallet, 37 ans, cet homme jugé pour avoir, avec son collectif Busy, volé des chaises dans des banques, on les appelle les faucheurs de chaises, pour faire lumière sur leur petite tendance à ces banques à l'évasion fiscale. John Pallet, entre autres, il prône la non-violence. Il estime que ça sert à rien, que si la France est par exemple révolutionnée par des individus cagoulés, qui aura envie ensuite de leur donner le pouvoir ? Que les gens de Nuit Debout et les zadistes se trompent quand ils ne veulent pas condamner la violence. Il dit aussi les zadistes ne laissent pas entrer les militants EELV parce qu'ils les considèrent comme des traîtres, c'est forcément une impasse parce que très peu de gens vont se reconnaître dans le fait de vivre dans une cabane.
Comment on vole des chaises dans une banque ? Il y a des sas.
Alors, ils arrivent. Non, mais c'est les chaises des employés, etc. Oui. Ils arrivent, ils expliquent tout doucement ce qu'ils vont faire. Ils préconisent de faire des gestes lents pour pas effrayer les gens de la banque.
Ils partent avec la chaise.
Et ils partent avec la chaise. Ça donne des scènes assez marrantes parce que comme ils prônent la non-violence, par exemple, quand les CRS arrivent pendant des manifestations, ils laissent les chaises, ce qui fait qu'il y a 245 chaises, par exemple, entourées uniquement par des CRS. Scène un petit peu absurde. Sa manière de voir les choses semble en tout cas avoir fonctionné en termes d'image et d'adhésion, puisqu'à son procès, même le procureur a réclamé la relaxe, Eva Joly faisant office d'avocat, et la BNP, sentant le vent moisi, n'a même pas envoyé d'avocat. Des formes de résistance originales qui sortent un petit peu des sentiers rebattus, on en trouve aussi ce matin dans le Figaro. Et oui, dans les pages santé, on s'interroge sur cette petite tendance à tout arrêter, à faire des mois sans, sur l'abstinence de téléphone, d'huile de jojoba, de gluten et tutti quanti. Pour le psychiatre Marc Valeur, ces abstinences, c'est aussi parfois une manière de dire merde, de résister. Quand tout devient objet de consommation, les objets, les gens, frais de touche, quand tout devient drogue, que la pub nous dit de manger gras, que l'État nous parle comme à des gosses et nous dit de manger maigre, quand tous ces messages finissent par s'accumuler et nous boucher la vue. Et puis, ajoute-t-il, je pense que c'est plus intéressant quand la personne le vit comme une expérience. Ah, une expérience, c'est aussi ce qu'a dit Fred Touche tout à l'heure pour vous faire acheter son disque. L'expérience, le mot fait tilt, parce que pour le philosophe Gilles Lipovetsky, interviewé par La Croix ce matin, eh bien, d'après lui, on a remplacé le culte des objets, justement, par ce culte de l'expérience. Le consumérisme n'est pas délaissé, il a juste changé de forme. Même l'économie collaborative permet de consommer plus avec moins cher. Ça permet de voyager plus, de bouger plus, d'avoir des choses qu'on n'aurait pas, des expériences. Et le malheur là-dedans, c'est que même en accumulant les expériences ou les objets, le bonheur persiste à ces objets, à s'échapper, pardon, alors quand on nous le vend comme ultime but de tout ça, de la consommation de gâteaux avec ou sans gluten, on finit par vivre comme un scandale le fait de nous sentir mal.
Que faisait Fred Touche dans cette revue de presse ?
Oui, bien parce qu'il m'a fait penser à ce que je disais, parce qu'il a dit plusieurs fois, c'est une expérience, achetez mon disque, c'est...
Oui.
Voilà.
Oui, et c'est une expérience, et à propos d'expérience, ben voilà, Edouard est parti, Atmen est parti avec Fred Touche.
Et te voilà seul.
Et me voilà seul, j'ai fermé la porte du studio afin qu'Edouard ne puisse plus rentrer.
C'est malin.
Et voilà, c'est malin.
C'est très malin,
et
Chris.
Maintenant, je veux une augmentation.
Alors, voilà, d'abord, lance la pub et les infos.
D'abord, très bien. La pub et les infos de Marie Bonisseau.
Oui, c'est exactement ça.
Voilà.
7h, 9h, plus près de toi.
De 7h à 9h, j'écoute plus près de toi.
Plus près de toi. Ah,
oh, il fait une chaleur dans cette émission.
Il est 8h32, vous êtes en train de vous demander si vous allez arriver tard, là où vous devez arriver. Non. Voici le journal de Marie Bonisseau.
Radio Nova.
Quatre policiers d'Aulnay-sous-Bois en Seine-Saint-Denis ont été mis en examen hier. Un pour viol, les autres pour violence volontaire. Les faits remontent à jeudi dernier au cours de l'interpellation d'un jeune de 22 ans dans la cité des 3000. Il souffre de blessures graves, il est toujours hospitalisé. 37 000 foyers français toujours privés d'électricité ce matin, dont 4 000 de plus cette nuit dans l'Aude et les Pyrénées-Orientales. C'est les deux derniers départements classés vigilance orange à cause de la tempête Marcel. Allez, courage, ça devrait se calmer vers midi d'après Météo France. François Fillon, contre-attaque, c'est le titre de ce qui devrait se passer ce soir. Il doit parler dans un média tenu encore secret pour l'instant. Après un week-end de consultation, le encore candidat des Républicains pourrait faire acte de contrition, croit savoir les Échos. Facebook va tester un dispositif anti-fake news. Vous savez, c'est ces infos bidons accusées d'avoir aidé notamment à faire élire Donald Trump. Alors pour éviter ça dans la campagne présidentielle française, 8 médias vont collaborer avec Facebook, vérifier les infos et signaler les articles fantaisistes sur le réseau. 1,4 tonne de cocaïne dans un voilier au sud de l'Australie. Les policiers en rêvaient. Ils ont fini par la trouver, cette planque des narcotrafiquants. Après 2 ans et demi d'enquête, 6 personnes ont été arrêtées et c'est donc la plus grosse saisie de cocaïne de l'histoire de l'Australie.
On redit juste l'intitulé avec moins de rêve dans votre voix.
Oui.
Une tonne 4.
C'est pas vrai, vous entendez ce que vous voulez entendre.
Une tonne 4 de cocaïne australienne, on dit pas une tonne 4 de cocaïne, on dit une tonne 4 de cocaïne australienne. C'est grave, c'est mal. Pas, voilà.
Il voulait l'indépendance, il se retrouve... Il voulait l'indépendance, il se retrouve devant la justice. Artur Mas, l'ancien président de la Catalogne, est en procès depuis ce matin pour avoir organisé un référendum sur l'indépendance de sa région. C'était il y a 2 ans. La Cour constitutionnelle espagnole avait interdit ce vote, organisé quand même et soldé par un oui à l'indépendance à 80% des voix. Du football aux larges épaules, c'était la finale du Super Bowl cette nuit à Houston. Victoire des New England Patriots contre les Falcons d'Atlanta, 34-28. Le Super Bowl où l'on a aussi vu Lady Gaga et la bande annonce de la saison 2 de Stranger Things annoncée pour Halloween 2017. On a un tout petit peu le temps. En France, le derby Saint-Etienne-Lyon, victoire des Verts 2-0. Saint-Etienne remonte à la 5e place du classement de Ligue 1, juste derrière l'OL qui voit s'éloigner les chances de podium. Et puis enfin, le Cameroun est champion d'Afrique de football. Hier, les Lions indomptables ont battu les Pharaons d'Égypte 2-1.
Magnifique.
Alors je pensais que vous alliez finir sur la météo, donc j'étais...
Si, j'en ai parlé en deuxième, parce que j'ai remarqué que vous aimiez ça.
Oui, 8h34, c'est l'invité du journal. 2-1, c'est une phrase dont l'auteur est avec moi. Bonjour,
oui,
Michel Goulin.
C'est déposé.
2-1, c'est déposé. À chaque fois qu'il y a 2-1 dans n'importe quel sport, c'est de vous.
Je touche, voilà.
Tu touches,
je touche.
Que ça soit en foot, dans d'autres sports, quel pays.
En économie, en météo, en cuisine, 2-1.
Alors voilà. Hier, on a reçu 7-5 qui gagne très peu d'argent.
C'est mon cousin.
C'est pas vous.
C'est mon
alors
cousin.
Lui, là, c'est pas très malin parce que c'est rare.
C'est rare, 7-1. Ça a été, il a beaucoup touché pendant la Coupe du Monde il y a contre le Brésil, contre la France.
Si, oui.
Mais 2-1, c'est une rente pour
c'est
moi.
C'est une rente. Là, je dis 2-1. Tu touches là.
Je touche.
2-2.
Il n'y a pas.
Ça, c'est pas vous. Par contre, 2-1.
Ah, c'est moi. Là, je touche. C'est formidable.
Mais 0-0.
Non, je m'en fous.
Et puis 2-3.
Ou non,
c'est 2-1.
2-1, voilà, c'est ça.
Voilà, dès que je le dis, vous touchez là. C'est déposé.
J'ai un café.
2-1. Ah, je l'ai redit. Oui,
mais alors, faut pas le dire parce que la petite est contente parce que les vacances au ski, c'est grâce à 2-1.
Voilà. Merci beaucoup.
Oui, il y a une formation. Quand, par exemple, il y a des personnes très handicapées, on les met sur leur fauteuil, on les aide à la toilette. Voilà.
Les collègues, ils arrivent ou pas là? Ah,
non, elles sont pas encore là. C'est pas encore fait l'heure, je suis en avance.
On est où?
À Valmy, à la station de métro Valmy.
Bonjour madame.
Bonjour.
Valmy, c'est quelle ligne? Je connais pas bien le métro lyonnais.
C'est la ligne D.
Qui va d'où à où?
Qui va de Gare de Vénissieux à Gare de Vèze.
Vénissieux d'un côté, de l'autre côté?
Vèze.
Et donc là, vous montez à Valmy et vous descendez où?
Non, je suis descendue à Valmy.
Ah, attention.
Excusez-moi, il y a un monsieur qui veut du feu. Non. Bonjour.
Vous fumez à la station de métro
ouais,
Valmy?
Bon, parfait.
Oui.
On peut fumer à Valmy, c'est en extérieur?
Oui, on est en extérieur, oui.
Oui?
Oui.
Ah non, je croyais que...
Silence.
Non, j'étais bien, on était tous les deux, vous étiez là, vous attendiez le métro. J'ai compris que vous alliez travailler dans un hôpital?
Non, chez les personnes.
Chez les personnes directement. Vous êtes, voilà. Vous êtes aide à domicile pour personnes handicapées ?
Voilà, c'est ça. Et personnes âgées, et pour les enfants aussi, on peut travailler avec les enfants.
Et vous suivez toujours les mêmes personnes ou ça dépend ?
Bah là, on n'a pas commencé. Là, on est en formation pour l'instant.
D'accord. Et il y a des gens à qui vous êtes déjà un peu attachés, que vous allez voir, ou il faut faire attention à ne pas trop s'investir
Ben c'est ça, il faut faire attention à ne pas trop s'investir émotionnellement.
Oui. Mais alors, comment on fait quand tout à coup, on est très très attaché à quelqu'un ?
Eh ben, soit on essaye de changer de personne pour ne pas trop s'attacher, ou ben, il faut se protéger, quoi, dès le départ.
Vous pensez que c'est dur de se lancer dans un métier qui lui-même a l'air dur, qui est aussi utile, tout en se disant qu'il faudra se détacher un peu ?
Oui, oui, c'est dur quand même, je pense.
Parce que c'est pas mal de s'attacher dans la vie, quand même.
Bah oui, il faut faire la part des choses.
Bon, mais est-ce qu'à côté, vous avez une vie assez forte, affective, qui vous permet de vous recentrer ?
Oui, bien sûr, oui, oui.
Ah, ça m'intéresse. Il y aurait donc une personne qui habite chez vous ?
Oui.
Cette personne est encore à la maison ou est partie travailler, la personne ?
Non, aujourd'hui, elle est en repos.
La personne est en repos, est au lit pendant que vous travaillez ?
Voilà, pendant que je suis en formation.
Vous allez rentrer à quelle heure ?
Je vais rentrer à 6 heures.
Est-ce que la personne sera encore au lit à 18 heures ?
Non, je pense pas.
Est-ce que le fait de vous voir arriver dans l'enthousiasme de vous voir et dans la jeunesse du début d'une relation, la personne pourrait se remettre au lit ?
Non.
Même
on
si
peut
vous...
pas.
Pourquoi ?
On a une petite à s'occuper.
Ah, y a une... Je suis sûr que vous trouverez des solutions. Je vous embrasse très fort.
Merci, moi aussi.
Salut.
7h, 9h, plus près de toi. Plus près de toi.
Plus près de toi. 7h, 9h, c'est vraiment ce qui se fait de mieux en ce moment.
Ça se bouscule comme souvent à la fin de l'émission, alors que l'immense Nicolas Lebourg, l'auteur de Lettres aux Français qui croit que 5 ans d'extrême droite remettraient la France debout, est là avec nous. Eh bien, Martha Haye est en train de répéter la légendaire Martha Haye. Ils sont en train de répéter, là, ils vont jouer tout à l'heure en live. Voilà. J'adore la répétition, eh bien.
Parce que c'est pas un disque, c'est en train de se passer.
Non, c'est en train de se passer vraiment là. C'est vraiment la balance qui a lieu là. On est comme un concert, on est à un concert de 8h30 du matin.
Bah oui.
Ouh, ah. Je me pose. Thomas Baumgartner.
Édouard Baer, oui, on reçoit Nicolas Lebourg. Effectivement, Nicolas Lebourg, bonjour. Vous avez signé ce livre-là.
Un titre court, Nicolas Lebourg.
On ne répète pas donc, mais qui est publié aux éditions Les Échappées il y a quelques mois. C'était en septembre ou octobre. Vous l'avez fait paraître à ce moment-là. Il y a pas mal de choses qui sont passées entre-temps, et notamment une Marine Le Pen qui est sortie hier de son silence, parce que c'était à peu près ça. Elle est entrée en campagne hier à Lyon. Vous êtes un spécialiste des questions de l'extrême droite. Vous êtes chercheur associé au CEPEL, le Centre d'études politiques de l'Europe latine à Montpellier, et membre de l'Observatoire des radicalités politiques. Vous avez signé une dizaine de livres autour de cette question de l'extrême droite, seul ou à plusieurs. Et hier, on a considéré, certains observateurs ont considéré que c'était un meeting à la fois entre normalité et radicalité. Et c'est ça la tension aujourd'hui du Front National, c'est-à-dire à la fois être policé et en même temps satisfaire des électeurs de base.
Ça a toujours été le propre du Front National dès sa création en 1972, c'est d'arriver à normaliser cette radicalité politique. Mmh. Alors hier, ce qui était intéressant, c'est qu'on a vu Marine Le Pen tenir un discours qui correspondait à ce qui se cristallisait dans l'imaginaire de son électorat, dans l'imaginaire d'une partie de la population, mais qu'elle n'avait pas tellement formalisé jusque-là, sur la question d'un mondialisme qui serait à la fois le mondialisme de la finance, ouais, et le mondialisme de l'islamisme. Parce que, effectivement, nos compatriotes ont bien vu que la question du terrorisme, c'est des questions de réseaux transnationaux, et que donc ça pouvait être lié à cette question de la mondialisation dans un discours d'extrême droite, et face à ça, proposer une solution qui serait celle de la souveraineté.
Alors, est-ce que... voilà, vous vous dites dans votre livre qu'aujourd'hui, les électeurs du Front National, ou ceux qui pourraient croire que 5 ans d'extrême droite remettraient la France debout, qui ne sont pas forcément, puisque pour reprendre l'idée de votre titre, ne sont pas forcément ceux qui vont voter Front National, mais qui pourraient penser ça, n'ont pas, a priori, une revendication de redistribution sociale, mais plus une idée de hiérarchie sociale qui redevienne légitime, l'idée qu'il y ait un mérite dans la hiérarchie sociale. Et en même temps, vous dites quand même que la question de l'immigration reste centrale dans le vote Front National.
Alors, la question de l'immigration, elle reste toujours la première motivation des électeurs du Front National. Maintenant, immigration, c'est un mot valise. Dans l'immigration, on met plein de choses. Il y a des gens qui vont mettre les questions de la sécurité, il y a des gens qui vont mettre des questions culturelles, etc. Et ce qu'il faut bien voir, c'est cette question de la hiérarchie sociale légitime, c'est au cœur de l'électorat des droites. Quand Nicolas Sarkozy capte les voix du Front National à sa première en 2007. C'est son discours sur la valeur travail en disant ben voilà, il faut que le travailleur gagne plus que l'assisté en bas, avec une dénonciation quelque peu poétique des profiteurs d'en haut. Et c'est la même chose chez Marine Le Pen. On retrouve cette idée, effectivement, qu'il faut que la hiérarchie soit légitime. On la trouve mais à voce, si j'ose dire, dans les petites tensions populistes qu'il y a aussi dans le discours d'un Emmanuel Macron aujourd'hui. Mmh.
Est-ce que vous pensez que aujourd'hui Marine Le Pen peut attirer les électeurs de François Fillon si d'aventure celui-ci se retire de la course à la présidentielle?
Alors je vais d'abord dire un lieu commun dont vous allez me pardonner. On est sur une élection qui est incomparable à tout autre. Ouais. Ce qui est certain, ce qu'on peut dire rationnellement, c'est que en cas de second tour, extrême droite contre un candidat de gauche, le problème pour le Front National, c'est qu'il plafonne à 40% de report des votes de droite. Que les obstacles, sont en particulier son programme économique. Pour ça que Nicolas Sarkozy, avec une certaine intelligence tactique, avait pris l'habitude de dire c'est le même programme économique que Jean-Luc Mélenchon, alors que Jean-François Copé aux européennes avait jugé bon de porter la campagne sur le jambon dans les cantines scolaires, qui fait que sur une élection à un tour, c'était plié, l'électeur allait directement voter FN. Donc il y a ce problème-là, il y a cet écueil-là, et puis il y a l'écueil de la personnalité de Marine Le Pen en soi, d'où la personnalisation très forte, le clip qu'on a pu voir hier lors de son meeting. Il y a le problème de sa personnalité. Vous prenez tous les items négatifs lorsqu'on pose des questions dans les sondages aux gens. Est-ce qu'elle est sectaire? Est-ce qu'elle est dangereuse? Etc. Marine Le Pen, elle est au-dessus de 50% sur tous les items négatifs. Dans une élection à 50% plus un tour, c'est évidemment contrariant.
Mmh. Est-ce que vous ne pensez pas que comme Trump, le virage, un discours presque social qu'a Marine Le Pen depuis qu'il y a cette implantation dans le Nord, peut attirer des électeurs beaucoup plus qu'avant d'extrême gauche, des gens qui même iraient jusqu'à voter Mélenchon au premier tour, pourraient aller vers Marine Le Pen?
Alors, excellente question. Il y a deux éléments. D'abord, les électeurs ouvriers qui votent Marine Le Pen sont beaucoup moins d'anciens électeurs de gauche que des gens qui, depuis 88, d'abord sont aujourd'hui des primo-électeurs qui viennent pas forcément de la gauche, mais depuis 88, c'était les familles ouvrières de droite qui se radicalisaient. Il y a toujours eu en France une grande partie de l'électorat ouvrier, de l'électorat populaire qui votait à droite. Ensuite, son discours sur la mondialisation, c'est intéressant, c'est qu'on prend son premier vrai discours de campagne, celui à l'université d'été de Fréjus. Elle dénonce le mondialisme, elle dénonce les catégories de Français qui souffrent, elle parle de ça, mais elle ne parle pas de son cœur électoral à ce moment-là, elle ne parle pas des travailleurs du secteur privé, parce que si elle dit qu'ils souffrent, bah ça voudrait dire qu'il faudrait des hausses de salaire. Et elle n'en parle qu'à la fin de son discours, quand elle parle du mondialisme financier, de cette finance internationale, c'est-à-dire quelque chose, là aussi, d'assez poétique, d'assez éthéré. C'est un peu la même chose dans son discours d'hier. Elle ne parle pas à son cœur de cible, les travailleurs du secteur privé, mais elle dénonce un mondialisme, quelque chose d'assez lointain, donc elle peut parler en même temps aux petits chefs d'entreprise.
Mais si, en fait, on veut recueillir vraiment tous les votes dits de colère, des votes anti-système, il faut rester le plus flou possible sur son programme, non?
Ah oui, bien évidemment, oui. C'est tout le talent d'une élection présidentielle à deux tours, c'est qu'il vous faut de toute façon agglomérer toutes les catégories sociales et tous les territoires. Une des difficultés aujourd'hui de Marine Le Pen, et un des points sur lesquels importe Marion Maréchal Le Pen, c'est qu'elle dit que le Front National, par exemple, ne parle pas assez aux catégories moyennes de la façade atlantique, parce que les choses se combinent ainsi. Et c'est vrai que lorsqu'on regarde les cartes du vote FN, là-dessus, on ne peut que donner raison à Marion Maréchal Le Pen.
Ce qu'on dit, social, le FN est social au nord, identitaire au sud, mais à l'ouest, on ne sait pas ce qu'il est.
À l'ouest, il est trop flou. Alors après, il y a des subtilités, comme bien montré par exemple quelqu'un comme Joël Gombin, c'est que sur le couloir rhodanien, donc si vous descendez du Lyon jusqu'à la Côte d'Azur, vous allez avoir des territoires où on vit beaucoup de la redistribution par l'État, on vit beaucoup des allocations, où l'économie est une économie courte, sur des territoires courts, peu mondialisés. Et là, vous avez d'excellents scores du Front National aussi.
Henri Guénaud sur cette antenne, sur Nova vendredi, en fin de journée.
Il y a plein de gens qui gueulent, d'ailleurs, j'ai vu sur les réseaux sociaux, parce qu'Henri Guénaud parle sur Nova, comme si Nova devait laisser une radio, devait donner la parole qu'à une catégorie de pensée de gens qui sont d'accord entre eux. C'est bizarre. Comme
en l'occurrence, il répondait donc à Gérard Davet et Fabrice Lhomme et Caroline Dussin dans Éléments de langage. Il y avait donc une interview débat avec lui, et il a considéré que Marine Le Pen n'était pas d'extrême droite. Vous entendez ça comment, vous, Nicolas Lebourg?
Comme quelqu'un qui a soit moins de culture historique que ce qu'il ne paraît, soit comme quelqu'un qui raconte une bêtise. L'extrême droite, c'est quelque chose qui est dans notre vie politique constitué depuis les années 1880. La plus vieille mention que je connais, c'est dans les années 1820. Mmh. L'extrême droite, c'est quoi? C'est considérer que la société doit être, c'est ce qu'on appelle l'organicisme, doit être comme un corps. Il faut que la tête soit à sa place, sinon le corps meurt. Il ne faut pas qu'il y ait d'intrusion étrangère, sinon ça métastase et le corps meurt, etc. Donc cette conception organiciste qui est le cœur idéologique de l'extrême droite. Il suffit d'écouter Marine Le Pen une heure pour avoir une dizaine de mentions organicistes dans son discours. Donc, c'est pas les questions sociales, c'est pas les questions économiques. L'extrême droite est très plastique dans son programme. Le programme, c'est une question de gens de gauche qui après disent « Mon Dieu, il a été trahi, on est fâché ». L'extrême droite, c'est une vision du monde. Et sur le plan de la vision du monde, Marine Le Pen correspond à cette tradition qui date du 19e siècle, qui n'est pas réductible ni à Vichy, ni au Troisième Reich, bien évidemment.
Une dernière question, Nicolas Lebourg. Dans Lettres aux Français qui croient que 5 ans d'extrême droite remettrait la France debout, ce sont plusieurs lettres que vous adressez à des personnages imaginaires, pas des idéotypes, pas des catégories socioprofessionnelles, des gens, des lieux d'ailleurs, des villes que vous connaissez, des gens que vous avez peut-être croisés, et vous faites une sorte de nomenclature de ce qui pourrait motiver leur vote ou leur intérêt pour le Front National. Vous terminez votre introduction en disant voilà, c'est fait pour discuter, vous avancez des arguments, vous sortez d'ailleurs un peu de votre rôle de chercheur neutre, mais vous faites ça, et à la fin de cette introduction, vous dites voilà, on va discuter, et après, il va falloir trancher vraiment. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a bien vu que les primaires ont été un référendum pour ou contre Nicolas Sarkozy. La primaire à gauche était un référendum pour ou contre Manuel Valls. Il est certain qu'on se dirige sur un second tour, et un second tour d'élection présidentielle, qui risque de ressembler à des référendums autour de Marine Le Pen. Elle va le situer ainsi. Lorsque on écoutait l'actualité de ce week-end, Marine Le Pen qui dit « il y a d'un côté les patriotes, de l'autre côté les mondialistes », Monsieur Macron qui dit « il y a d'un côté les progressistes, d'un côté les conservateurs », on voit bien qu'ils essayent de positionner un discours pour se placer l'un face à face. Donc il y a aujourd'hui un enjeu qui va être extrêmement fort et sur lequel justement peut-être que les circonvolutions, vous parliez de celle de M. Guénot tout à l'heure, ne seront plus tout à fait adéquates.
Merci.
Merci beaucoup.
D'habitude, vous dites merci Nicolas merci. Lebourg. Hein, Thomas, là, il est où mon Thomas? Il est là.
Merci Nicolas Lebourg. Lettre aux Français voilà. Qui croient que 5 ans d'extrême droite remettrait la France debout, c'est paru aux Échappés.
Et c'est parce que le titre est trop long, alors il n'a pas fait le.
C'est vrai,
le truc,
j'ai buté. Je ne sais pas.
C'est un truc de situationniste, ça, de faire des titres très longs. Ouais. J'aime bien. Salut.
Plus près de toi.
7h, 9h.
Édouard Baird, 7h, 9h, à mon avis, il ne fait pas ça pour rien.
Une organisation toujours au top avec Édouard Baird qui est parti.
C'est l'opération duplex à 10 mètres. C'est mon truc préféré, c'est pas notre.
Édouard, je suis avec Atmen.
Oui, Atmen.
Et Martin.
Donc Atmen, Rudy.
Édouard.
Rudy, comment ça se passe là? Il fait très froid, mais je sens que tous les musiciens, les cuivres sont là. Je suis passé voir, c'est magnifique.
Exactement, c'est le Italian Royal Family qui est au service de Martaille depuis quelques années. Alors Martaille, c'est une véritable reine qu'on reçoit ce matin. Martha Arvindi Martaille, ici présente, est une mémoire de la musique, plus précisément de la soul music, puisqu'elle a dédié 30 ans de sa vie au service du Godfather de la soul, James Brown. 30 ans à chanter pour et avec lui, à être sa confidente, son amie, et en même temps, un petit bout de temps, sa coiffeuse aussi. Nous parlons quand même ici d'une dame qui était sur scène pour le mythique concert Zaïre 74 à Kinshasa pour le combat du siècle Ali Forman. Et depuis 2000, l'ombre est devenue lumière. Martha Haye roule et chante enfin pour elle-même. Son dernier album solo Singing for the Good Times est le fruit d'une fantastique rencontre avec un autre homme, Lucas Sapio, italien, qui cette fois, lui, s'est mis au service sur mesure de la Queen. Elle va nous interpréter deux morceaux. Le premier s'intitule The Hardest Working Woman. Elle a un peu froid, mais elle va nous réchauffer et se réchauffer. Martha.
Hello.
Nice to meet you.
Hello.
Welcome. Welcome.
Martha.
Yeah, we can go. Pleasure being here.
Oh, how are you, Martha? Attends, il faut que je vais la voir. Je vais la voir, Martha. Attendez.
Viens, Edouard. Viens, elle t'attend.
Thank you.
Edouard court en direction du live. Voilà, il arrive dans la verrière, dans le café Nova.
You're so courageous, you're so strong, you can sing by... Martha peut chanter en plein hiver, in the middle of the winter. Are you used to... When you started singing, it was a very bad condition like that?
When I first started singing, yeah. Maybe, it might have been.
C'est un retour aux sources quand on commençait à jouer. Do you remember when you were touring the US, some strange concert like that during the morning?
I remember with Mr. Brown in the stadium in Atlanta, Georgia, and it was quite cold. So that was one of the experiences, but I haven't...
On est comme dans un stade à Atlanta avec James Brown, comme on pouvait pas rêver mieux. That's a dream, to be James Brown in a stadium in Atlanta. Thank you very much. J'aurais toujours rêvé.
It was a dream that came true.
So that make you remember that, so I'm very happy. Ça lui rappelle, c'est des bons souvenirs. Now you're touring the world.
Yes, I am. I'm touring the world with my favorite... Band,
il y a 15 mecs, c'est comme Barbara et ses hommes derrière. Il y a 8 hommes qui sont là, forts et fiers derrière Martha.
Yes, and we are having a ball and you know performing our new album, singing for the good times with the Italian royal family.
On est très honoré de vous recevoir. We are very honored to have you here this morning. J'allais dire tonight parce que je suis un mec de la nuit. On vous écoute. Bravo. Les traductions sont disponibles sur le site. Thank you very much, merci. C'est fini. À demain, voici les 30 glorieuses et magnifiques de la voix ici en studio. À demain, bravo.
Edouard Baird.
7h-9h.
Plus près de toi.
Point final.